Vous allez entendre le message « Les 10 vierges et les 144 000 juifs » prêché le 11 décembre 1960 par notre précieux frère et pasteur William Marion Branham. Bonjour, je suis heureux d'être de nouveau ici ce matin au service du Seigneur. Le mauvais temps à l'extérieur, mais oh, c'est vraiment bon à l'intérieur. C'est une fois qu'on peut dire que c'est bien d'être à l'intérieur et regardant dehors, n'est-ce pas? D'être à l'extérieur et regardant à l'intérieur. J'ai bien dormi la nuit dernière et je me sens beaucoup mieux ce matin. Et on a passé des moments merveilleux hier soir, n'est-ce pas? Vraiment des moments merveilleux. Et j'apprécie cela. Nous avons eu, la réunion ressemblait à celle qui s'est déroulée là-bas à Shreveport, pratiquement la suite de la conduite de l'Esprit qui continue d'avancer. Oui. Nous sommes donc très heureux et reconnaissants à Dieu pour sa bonté et sa miséricorde et pour vous qui lui abandonnez votre esprit en collaborant de sorte qu'il puisse nous conduire et nous guider. Voyez, si vous avez une auditoire hostile, le Saint-Esprit ne le révélera même pas. Vous devez avoir quelque chose œuvrant ensemble. Ils étaient dans le même lieu et dans le même accord. Et alors, il vient du ciel un bruit, voyez. Mais quand vous avez, peu importe combien je pourrais prier et rester la jour et nuit et étudier à prier devant le Seigneur, en m'avançant ici avec peut-être l'onction sur moi, en montant ici et que je perçoive ce ressentiment, voyez, ça ne fait que l'attrister et l'éloigner sur le champ. Il ne révélera rien. Mais quand vous avancez ici sous l'onction et sentez que votre auditoire est sous l'onction, c'est là que le Saint-Esprit se met à l'œuvre et alors il commence à agir et à faire de grandes choses pour nous. Alors, voyez, je n'avais pas encore parlé au pasteur au sujet de « J'ai entendu croix seulement » et je me suis donc avancé en vitesse pour voir ce qu'il en était, ce qu'il avait préparé pour ce matin. Maintenant, frère Neveu, voici ce que je vais faire. Je vais commencer cette petite leçon et si je termine vers 11 heures, d'accord, tu prends la relève et commence à prêcher. Qu'en dites-vous? Oui, ne dérange pas l'onction. Vas-y, continue. Oh, je crois que l'onction qui est ici est aussi l'onction qui est ici derrière. Frère Neville a toujours été, pour les étrangers qui ne sont peut-être pas venus ici auparavant, c'est un homme, je ne le dis pas en face de lui, mais c'est une personne gracieuse qui a toujours été comme ça. Il lit toujours cette vie, cette écriture, se préférant les uns aux autres. Toujours en Christ et toujours préférant. Et depuis que je le connais, il est comme ça, depuis qu'il est ici au tabernacle, mais depuis que je le connais, il y a de ça bien des années. La première fois que je peux me souvenir d'avoir vu Frère Neville le connaître, c'est quand je suis allé l'entendre prêcher à l'Église méthodiste à Howard Park. Il y a bien, bien des années, cela fait, je suppose, 20 ans, je suppose, ou plus que je le connais. Puis il travaillait aussi, je suppose que jusqu'à récemment, il avait toujours travaillé dans le secteur forestier et autres à Henryville, d'où il vient. Et il travaillait pour gagner sa vie en prêchant en plus. C'est comme ça que j'ai fait ma vie également jusqu'à récemment, lorsque nous sommes arrivés au point où nous ne pouvions plus rien faire d'autre que ça. Alors j'en suis heureux. Je suis heureux de notre nouveau patron, n'est-ce pas, Frère Neville? Oui, monsieur, certainement que j'aime cela. Oui, je suis vraiment satisfait avec lui. Et maintenant, je crois qu'ils vont omettre les classes de l'école du dimanche. Oui, la classe de l'école du dimanche. Ils vont l'omettre parce que la salle, ils ont enlevé les cloisons, alors cela permet d'agrandir l'église jusqu'au fond à l'arrière. Maintenant, ce soir, nous aborderons le dernier ange, grand âge de ceci, Laodicée. Et hier soir, nous avons pris l'âge de Philadelphie et nous sommes arrivés au début de l'âge de Laodicée et du chevauchement. Et puis, c'est grand mystère que Dieu commence à nous révéler entre ces âges, la porte ouverte, et un peu de force, à garder ma parole, elle porte mon nom. Toutes ces petites choses là-dedans, comment Dieu les a merveilleusement rendues réelles pour nous et nous en sommes très, très reconnaissants. Et n'oubliez pas, s'il y a des visiteurs parmi nous qui ont des gens malades, nous prierons pour les malades dimanche prochain, dans une semaine. Et ce sera, si le Seigneur le veut, et ce sera Remarquez-vous toujours comment j'aime dire « si le Seigneur l'a vu, la Bible dit de faire ça, si le Seigneur l'a vu ». Nous ne savons pas encore, il n'a jamais dit que je serai ici, que l'Église serait ici, que nous serions tous ici, ou quoi que ce soit d'autre. Alors, si c'est sa volonté, nous serons là, voyez-vous. Si ce n'est pas sa volonté, bien sûr, nous ne le serons pas. Frère Neville l'annoncera continuellement sur les ondes, et les autres, je suppose, les frères ici et ceux qui sont sur les ondes. Et puis, venez aussitôt que vous le pouvez dimanche matin, parce que nous nous attendons à une bonne foule pour laquelle on va prier et nous voulons entrer. Voyons voir s'il y a une telle foule. C'est toujours mieux d'avoir des cartes de prière parce qu'ils sont tellement entassés. Vous l'avez l'un pousse l'autre et des choses comme ça. Je pense que si on fait venir de façon ordonnée un par un, cela donne, cela limite la confusion parmi les gens, vous savez. Et puis, vous n'avez même pas besoin de vous lever jusqu'à ce que votre carte soit appelée. Restez simplement assis là. Si vous êtes malade et que vous vous sentez mal et vous n'auriez pas à rester debout dans une longue file d'attente, juste au moment où votre carte est appelée, mais montez simplement ici. On va prier pour vous et vous redescendez un autre lien comme ça. J'aime beaucoup ça. D'habitude, je demande au huissier d'installer quelque chaise. Si quelqu'un se sent mal à l'aise pendant qu'il attend, j'en appelle quelques-uns à la fois. Ils se sentent mal. Eh bien, laissez-les simplement attendre sur la chaise ou s'asseoir jusqu'à ce que leur numéro sorte. Et je crois à la guérison divine. C'est une des grandes doctrines de la Bible. Mais la guérison divine ne témoigne pas seulement qu'il y a une guérison divine. La guérison divine témoigne seulement qu'il y a un Dieu qui revient. La guérison divine rend témoignage de quoi? C'est le gage de notre résurrection. S'il n'y a pas de guérison divine, alors il n'y a pas de résurrection. Et s'il n'y a pas de Saint-Esprit pour nous baptiser maintenant, il n'y a pas de vie éternelle dans le monde à venir. La Bible dit que c'est le gage de notre salut. Vous savez ce que c'est le gage? C'est la compte, voyez? Si vous allez payer, si vous achetez une ferme, il voulait 10 000 $ pour celle-ci, vous en payez 2 000, c'est votre gage. Il l'appelle le gage. Maintenant, si ce baptême du Saint-Esprit est seulement le gage de ce qui est à venir, oh, qu'est-ce que ce sera quand nous aurons le plein prix? Ce sera glorieux. Maintenant, ce matin, nous allons essayer de relier, si le Seigneur le veut, certaines de ces choses entre les âges de l'Église. Ceux-là, juste ici, il y a quelque chose qui s'insère. Les 144 000, le reste, la Vierge endormie, la Vierge sage et le scellement du Saint-Esprit, la marque de la bête, toutes ces choses, c'est la fin de l'âge. Et tout aboutit ici au même endroit, de sorte que nous devrions avoir tout le restant de l'hiver pour aborder cela. Et nous, pour prendre le livre de l'Apocalypse et voir comment tout cela est relié ensemble. Avez-vous déjà remarqué, la civilisation a voyagé de la même façon, Mr. Wood? C'est l'homme à les mêmes sens, il a 6 sens, ou plutôt 5 sens, qu'il a depuis qu'il est venu sur la Terre il y a 6 000 ans. Mais juste ici, dans la dernière petite partie, les 100 dernières années, oh là là, il a commencé là-bas en se déplaçant lentement en char à bœuf. Mais de ce char à bœuf, au cours des 100 dernières années, il est passé d'un char à bœuf à une fusée qui volera à près de 2000 milles à l'heure. C'est la rapidité avec laquelle il a progressé du char à bœuf à la fusée. Et remarquez, ce n'est que depuis quelques années, il y a à peine plus de 50 ans, je dirais. Quand j'étais petit garçon ici à Utica-Pike, il y avait un certain Elmer Frank qui vivait par ici. C'est en quelque sorte un avocat. Il a épousé une jeune femme là-bas sur la rue dont mon père travaillait pour son père. Elle s'appelait Lusher. Il avait une sorte d'automobile. Elle avait une manivelle, on se plaçait à côté de celle-ci, on la mettait en marche comme ceci, et elle n'avait qu'un seul engrenage, et il y avait un gros truc en caoutchouc comme klaxon, et elle faisait crier comme ça, et il disait « Cette chose irait à la vitesse vertigineuse de 19 000 à l'heure. » Maintenant, papa y est allé, il a mis du sable dans le chariot, et pour l'amener là-bas et le mettre dans des sacs pour pouvoir la retenir, pour voir si cela pouvait vraiment atteindre 19 000 à l'heure. Vous voyez? Mais vous auriez dû voir les routes. Ah. Il n'allait qu'à 10 par là et 9 de haut en bas par là. Vous voyez? Donc, les deux ensemble, vous obtenez 19 000 à l'heure. Je me souviens, quand nous étions tous des enfants, maman nous l'avait tous, nous étions environ 5 à l'époque, nous restions là à cette clôture pour l'entendre, on l'entendait venir. Wah, 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 wah. Tout le monde s'arrêtait et tenait en bride ses chevaux et je décrochais la voiture à cheval et je les tenais comme ça, vous savez, cette chose qui venait sur la route, c'était une chose terrifiante. Et je pense que c'était à l'époque, j'avais à peu près 7 ans, vous voyez. C'était en 1914. Et pensez un peu à quel point les choses ont changé depuis lors. Et vous voyez, ça ne fait que 40 ans ou quelque chose comme ça. Et regardez, il a pris 6000 ans avant de faire tout cela ici même parce que la Bible disait qu'il le ferait de cette façon. Dans les derniers jours, ils courront ça et là, et la connaissance augmentera. Avez-vous déjà pensé à Nahum quand il a vu Arthur Drive à Chicago il y a 4000 ans? Il a dit qu'il se bousculerait sur les grandes routes. Maintenant, j'ai été dans les vieux pays où ils avaient leurs rues comme à Oslo et dans différents endroits, il n'y a presque plus de place pour marcher. C'est juste assez large pour qu'un char puisse passer dans leur ville. Mais probablement, la distance doit être d'ici à ce mur, c'est le plus large qu'était leur rue. Juste assez large pour qu'un char puisse passer dans la rue. Nahum a dit que c'était de grandes routes. Et il a dit qu'ils couraient comme des éclairs, ces voitures. Ils ressembleraient à des flambeaux. Ce sont les lumières sur celles-ci. Et il a dit qu'ils se bousculeraient l'une contre l'autre, les accidents. Ce prophète s'est élevé au-dessus du temps et a regardé très loin là-bas jusqu'à 4000 ans et il a vu cela venir. Pensez-y. Oui, l'inspiration. Mais nous sommes au temps de la fin, mes amis. C'est juste, il y en est de même pour les Écritures, étant donné que toutes ces choses se produisent, toutes les Écritures qui se trouvent juste ici au temps de la fin, juste ici. Et j'ai pensé ce matin, si Dieu veut bien nous aider, que nous pourrions relier ces choses, certaines d'entre elles, autant que nous le pourrons. Et puis ce soir, ce grand dernier âge, celui de l'Église de Laodicée, comme elle reçoit son message, puis dévie et ignore son message, allant tout droit dans un état de tiédeur que Dieu vomit de sa bouche. Vous voyez, en d'autres termes, cela lui donne mal au ventre, même d'y penser. « Je te vomirai de ma bouche », il a dit. Maintenant, j'ai ici quelques écritures que j'ai notées ici auxquelles j'aimerais me reporter ce matin, mais je me demande si ce n'est pas trop dur pour nous, juste pour un instant, de se lever pour un mot de prière. Notre bienveillant Père Céleste, alors que nous sommes de nouveau ici ce matin, en ce jour du sabbat, et à l'extérieur, les pluies ont commencé à tomber et le vent glacial qui souffle, mais nous sommes si heureux d'avoir un toit au-dessus de notre tête aujourd'hui, d'avoir un petit endroit et toujours une nation où nous pouvons venir et adorer Dieu, peu importe la façon dont notre conscience nous dit de le faire. Et nous voyons ta parole que cela ne continuera pas encore très longtemps. Ainsi, Père, nous prions pour que tu nous oignes spécialement aujourd'hui, pour que nous puissions tirer le meilleur de ce qu'il y a à obtenir et être préparés pour les heures qui nous attendent quand nous ne pourrons plus le faire. Nous ne savons pas combien de temps encore. C'est peut-être dans des semaines, des mois, des années. Nous ne le savons pas, mais un jour, nous ne pourrons plus le faire. Nous prions donc, Père, pour que tu nous gardes sous ta conduite divine et que nos pensées soient sur toi et que les méditations de notre cœur soient agréables à tes yeux, ô Seigneur. Pardonne nos péchés. Nous le demandons alors que nous te les confessons, que nous avons péché et que nous nous sommes égarés du chemin et nous ne sommes pas dignes d'être appelés les tiens. Fais seulement de nous tes ouvriers, Seigneur. Nous serons prêts à faire tout ce que tu nous diras de faire, n'importe quelle tâche qui nous sera assignée. Nous sommes prêts à le faire. Reçois-nous simplement dans ton royaume, Seigneur, pour que nous puissions travailler en cette grande heure terrible que le monde fait face. Bénis-nous maintenant de ta présence, enseigne-nous par ton Saint-Esprit et tire la gloire d'être réunis ensemble ici, car c'est au nom de Jésus que nous le demandons. Amen. Maintenant, j'aimerais premièrement reconnaître chacun de mes amis qui sont ici, que j'ai remarqué ce matin. C'est si difficile ici le soir. Notre éclairage est derrière ces endroits rabaissés plus bas et ça ne laisse pas voir les gens. Et c'est un peu difficile de voir cette chair le soir et ça l'est aussi pendant le jour. Je vois beaucoup de nos amis qui viennent de différentes régions du pays que je peux mieux reconnaître aujourd'hui que je peux le soir. Il y en a trop pour essayer de les nommer tous, mais je veux que vous sachiez que je vous apprécie beaucoup. Et après tout ce qui est dur et tranchant, et ainsi de suite, comme j'ai dû le faire dans les Écritures pour faire ressortir la vérité, ce n'est pas ce que je voulais faire, mais c'est que Dieu a écrit ici de faire, voyez-vous, et c'est tout ce qu'il faut. Et pourtant, je vois beaucoup de mes frères qui appartiennent à des organisations, et ainsi de suite, me soutenir encore. Alors, je vous apprécie beaucoup, beaucoup. Vous, que Dieu vous bénisse à jamais et vous aide et ma prière. Et maintenant, oui, frère, si j'ai la permission de l'Église de parler au nom de tous les gens ici présents, nous voulons que vous sachiez que nous vous apprécions et nous vous aimons, merci, frère Stryker, et nous prions que la grâce vous accompagne à travers la chose que vous pouvez avoir à passer afin de vous soutenir. Merci, Église. C'est vraiment bien de votre part de dire cela. J'apprécie cela énormément. Quelqu'un disait hier soir, je crois que c'est frère Fred qui m'a appelé et qui m'a parlé de la vision ou du songe qu'un certain frère a eu, qu'il a dit juste avant de partir hier soir. Il m'a vu debout sur l'arc de la terre et un nuage noir me courant après. Je sais qu'il est après moi, mais ça, aussi longtemps, il ne pourra pas le faire tant que Dieu n'aura pas terminé. Et alors il sera temps pour moi d'y aller. Mais je pense à cela de jamais être grand. Non, je ne veux pas l'être, noyé. Mais je pense au psaume de la vie. La vie de grands hommes nous rappelle tous, voyez, ce que Paul a fait, ce qu'Irénée a fait, ce que Luther a fait, ce que Wesley a fait, ou ce que Saint-Martin a fait, et ce qu'ils ont fait. Et la vie des grands hommes nous rappelle toujours que nous pouvons rendre nos vies sublimes, nos départs laissent derrière nous des empreintes sur les sables du temps. Des empreintes de pas que peut-être un autre en naviguant au-dessus de la grande voile solennelle de la vie, car après mon départ, voyez, et que je serai parti, un frère désespéré, naufragé, ramasse un de ses livres et le lise en voyant, se réjouira à nouveau, c'est ça. Soyez donc prêts et en action, avec un cœur pour tout conflit. J'aime ça, pas vous? Ne soyez pas comme du bétail sans intelligence et forcé qui doit être poussé pour le faire, mais soyez un héros dans le conflit. J'aime ça. Maintenant, notre petit frère George avait l'habitude de citer celle-ci qu'il aimait et je l'ai citée à son service funèbre. Nous avons utilisé, je citais le psaume de la vie, vous savez, et lui il citait franchir la barrière, voyez. Coucher de soleil et étoile soir et un appel clair pour moi, puisse-t-il n'y avoir aucune plainte à la barre, car je quitterai le port. Vous l'avez entendu bien des fois, car tout ce qui n'est pas est déplacé avec le temps et l'espace. Les inondations peuvent m'emporter au loin, mais j'espère voir mon pilote face à face quand j'aurai traversé la barrière. Je suis sûr qu'il l'a fait quand il a traversé la barrière. Et ainsi, alors, la mienne, et nos départs laissent derrière moi des empreintes sur les sables du temps pour que d'autres, les voyants, puissent venir. Prenez courage et continuez, car un grand jour, Jésus viendra et c'est ce que nous allons étudier ce matin et tout sera terminé. Alors, maintenant, ce matin, j'ai pensé, compte tenu que nous ne serons pas capables dans ces messages de l'Église, maintenant, peut-être, si le Seigneur le veut, bientôt, j'aurai peut-être une autre petite série de réunions sur la vraie et fausse Église, en commençant par la Genèse et en parcourant la Bible d'un bout à l'autre jusqu'à dans l'Apocalypse, et les deux Églises, ce qu'elles vont faire, et puis peut-être qu'un jour, quand nous, si le Seigneur le veut, nous ferons construire l'Église pour que vous puissiez avoir un peu plus de place assise, vous serez surpris du nombre de gens qui ont appelé et qui ont dit cela, ils passent en voiture et voient que tout est plein. Alors, ils continuent. Et donc, nous n'avons pas de place. Et peut-être comme en été, quand il fait chaud ou quelque chose comme ça, où nous avons le gymnase de l'école et quelque chose comme ça, ce serait bien de prendre le livre de l'Apocalypse ou quelque chose comme ça, ou le livre de Daniel et l'Apocalypse et de les relier ensemble pour que nous puissions l'aborder. Or, nous n'avons jamais rien eu à faire avec les peuples juifs. Les Juifs étaient, or, comme je l'ai dit, dans l'âge des ténèbres de 1500, la hiérarchie catholique, lorsqu'elle établissait l'union de l'Église et de l'État, c'était le post-millénium. Ils pensaient qu'ils étaient absolument dans le millénium parce que l'Église avait reçu son vicaire, comme le Christ, pour s'asseoir sur un trône, et il unirait l'Église et l'État, tout était bien. Que le grand millénium était commencé. Il le croit encore. Mais c'est une erreur. Parce que le millénium ne peut pas venir, ne peut pas commencer sans la venue du Christ. Christ introduit le millénium, il est le fils de la prospérité, et quand il viendra, alors les mille ans vont prendre place. Et quand ce sera le cas, il y aura l'enlèvement de l'Église qui montera, et ensuite le retour de Christ. Et souvenez-vous maintenant, quand est la prochaine que nous attendons? L'enlèvement de l'Église. Maintenant, ne confondez pas l'enlèvement de l'Église et le jugement du trône blanc. Parce qu'à l'enlèvement de l'Église, il n'y a pas de jugement. Voyez, vous y avez déjà fait face ici, c'est vrai. Car ceux qui sont en Christ sont affranchis du jugement. Jésus a dit, celui qui écoute mes paroles et croit en celui qui m'a envoyé a la vie éternelle et ne vient point en jugement. Mais il est passé de la mort à la vie. Comment y arrivons-nous? Nous entrons en Christ et sommes baptisés en un seul corps, 1 Corinthiens 12, un seul corps, nous sommes baptisés dans le corps de Jésus-Christ et Dieu a déjà jugé ce corps. Il ne pourrait pas nous passer à nouveau en jugement parce qu'il a déjà jugé ce corps et par la permission et la grâce de Christ, il nous fait entrer en lui-même, 1 Corinthiens 1. Nous avons tous, en effet, été baptisés dans un seul esprit pour former un seul corps, affranchi de tout jugement parce qu'il a subi le jugement. Oh, ne lui êtes-vous pas reconnaissant? Il a subi le jugement pour nous, plus de jugement. Mais ceux qui refusent d'entrer en lui, ce corps, le corps mystique, comment y entrons-nous? Par une poignée de main? Non. Par une lettre? Non. Par une sorte de baptême? Non. L'eau? Par un seul esprit? Saint-Esprit? Nous sommes tous baptisés dans ce corps. Maintenant, souvenez-vous, nous allons traiter de façon tranchante là-dessus ce matin. Vous êtes soit dans ce corps ou hors de ce corps. Il n'y a pas d'entre-deux. Il n'y a pas de chrétien assez bon, et là, soit que vous êtes chrétien ou que vous ne l'êtes pas. Il n'y a pas d'oiseau noir-blanc, pas d'homme ivre-sobre. Ça ne se peut pas. Vous êtes soit chrétien ou pas un chrétien. Vous êtes soit en Christ ou hors de Christ. Bon, cela peut ressembler à de l'enseignement. Je ne suis pas, je suis loin d'être un enseignant. Mais enseigner, c'est tranchant. C'est un don spécial dans le corps de Christ. Premièrement, les apôtres et les prophètes, puis les enseignants et les évangélistes, les pasteurs. 5 dons ministères dans le corps. Et l'enseignement est l'un des dons de l'Esprit. Mais maintenant, je ne fais que dire ce que je vois qui est juste et j'essaie de l'apporter aux gens et d'étudier et de relier les Écritures ensemble. Bon, c'est seulement en Christ, le corps de Christ, qui sera reconnu. Maintenant, dans les 3 premiers chapitres de l'Apocalypse, il est question de l'Église, les gens, des nations, les Juifs, les Éthiopiens, les Africains, tous les peuples du monde se rallient aux gens des nations pour former ce corps. Noir, blanc, brun, tout, c'est un bouquet de fleurs. Et c'est vrai que Dieu met sur son autel. Et il est formé de toutes nations, tribus, langues et peuples. Mais maintenant, après le chapitre 3, les âges de l'Église ici, Dieu revient et traite avec les Juifs. Il n'est plus question de l'Église pendant cet âge, il s'agit des Juifs. Et Dieu ne traite pas avec les Juifs en tant qu'individu. Il traite avec Israël en tant que nation. Toujours en tant que nation. C'est comme ça que quelqu'un l'a compris l'autre jour. J'ai beaucoup de lettres à ce sujet, la religion hybride. Que j'aurais fait une remarque, la Bible dit qu'un enfant illégitime, appelé un enfant bâtard, ne pouvait pas entrer dans l'Assemblée du Seigneur avant 10 générations, ce qui correspond à 400 ans, sans qu'un enfant illégitime ne puisse entrer dans l'Assemblée du Seigneur. Voilà à quel point l'hybridation était mal. C'était une femme qui laissait un autre homme vivre avec elle afin d'avoir un enfant. Et cet enfant était hybride, ne venant pas de son père, mais par un autre homme, voyez. Et c'était si mal aux yeux de Dieu qu'il fallait 10 générations pour que la lignée soit pure à nouveau devant Dieu. Mais cela ne s'applique pas à cet âge-ci. Vous avez une nouvelle naissance maintenant. Il n'avait qu'une seule naissance en ce temps-là, c'était par l'accouplement sexuel. Maintenant, nous avons cette nouvelle naissance qui est spirituelle, qui purifie et élimine tout. Et nous sommes de nouvelles créatures en Jésus-Christ, nées de nouveau de l'Esprit de Dieu. de nouveau, nouvelles créatures sur le mot créature, si certains d'entre vous, de bons érudits ici présents, le comprennent, sinon vous pourrez le vérifier. La créature vient du mot grec, une nouvelle création. Oh, de même que vous êtes une créature ici, née sexuellement, vous êtes alors une nouvelle création née du ciel, dans la nouvelle création de Dieu, d'un nouvel homme, une nouvelle création à la naissance. Mais ce doit être une naissance, tout comme la naissance naturelle est nécessaire, la naissance spirituelle est aussi nécessaire que la naissance naturelle. Un jeune couple pourrait se marier et dire, nous allons appeler notre premier petit garçon Jean. S'il ne vient pas au monde, Jean n'est jamais là, c'est tout. De même, vous pourriez, combien d'idées mythiques vous vous faites sur le ciel, combien c'est grand, si vous n'êtes pas né de nouveau, vous ne serez pas là, c'est tout, voyez. Il faut juste qu'il en soit ainsi, parce que ça doit être une naissance. Dieu a établi ses lois et tout fonctionne selon ses lois, voyez. Maintenant, parmi ceux-ci, il y a un reste de Juifs qui doit être sauvé. Nous allons les voir en premier parce que sa place, bon, il y a toujours trois sortes de gens tout le temps, constamment. Et gardez-les à l'esprit. Ce sont le croyant, le soi-disant croyant et l'incroyant. Ces trois-là. Il y a un Juif qui a été rejeté pour nous donner une chance. Il y a une Église tiède. Et il y a une église remplie de l'esprit. Un jour, Charlie Boynon était président ou surintendant des districts du Sud à la Société de services publics quand je travaillais pour eux. J'étudiais les Écritures à l'époque étant un jeune homme et il a dit, Billy, quiconque, il a dit, Jean a dû manger des piments forts et faire un cauchemar là-bas sur l'île de Patmos. J'ai dit, Monsieur Boynon, vous n'auriez pas dû dire ça. C'était mon patron, mon superviseur. Il a dit, qui donc peut comprendre ça? J'ai dit, c'est compris. Ce sera compris quand le Saint-Esprit sera prêt à le révéler. C'est vrai. Il a dit, oh là là, il a dit, j'ai essayé de le lire. Et mon pasteur a essayé de le lire. Il a dit, on s'est retrouvé en très mauvaise posture. Il a dit, nous avions là l'épouse qui se tenait sur le mont Sinaï, vous voyez. Il a dit, et puis l'épouse était avec le dragon qui crachait l'eau de sa bouche pour faire la guerre au reste de la postérité de la femme. Nous avions l'épouse dans le ciel, les trois en même temps. J'ai dit, sans la compréhension spirituelle, vous voyez. Il a dit, eh bien, les voilà, les trois en même temps. J'ai dit, oui, monsieur, mais ce n'est pas ainsi qu'elles ont été placées. Vous avez dit que les 144 000 étaient l'épouse, qu'ils n'étaient pas. C'était des Juifs. Et celui à qui le dragon crachait l'eau de sa bouche pour le combattre, c'était le reste. Des restes de la postérité de la femme qui gardait les commandements et le témoignage de Jésus. Et l'épouse était dans la gloire, voyez. Les 144 000 au chapitre 14 de l'Apocalypse se tenaient là sur le mont Sinaï, c'est exactement vrai, avec le nom de leur père sur leur front, c'est tout à fait exact, les Juifs, le reste des Juifs. Et puis vient le dragon, la hiérarchie romaine, et l'Église elle-même avait été enlevée, elle était dans la gloire au souper des noces pour 3 ans et demi. Alors le dragon, voyez, le dragon est toujours Rome, le dragon rouge. Pour vous rassurer, dans Apocalypse 12, le dragon s'est irrité contre la femme qui devait enfanter l'homme enfant, qui devait régner sur toutes les nations avec une verge de fer et qui faisait jaillir de l'eau de sa bouche et ou pour faire la guerre au reste de la postérité. Mais le dragon rouge, premièrement, il s'est tenu devant cette femme. Dès que la femme aurait enfanté cet enfant, il devait dévorer cet enfant dès qu'il l'aurait fait naître. Maintenant qu'il s'est tenu devant l'Église israélite, la femme, Israël, pour dévorer son enfant, Jésus, dès qu'il allait naître, Rome, Hérode, a proclamé que tout le monde devait tuer chaque enfant âgé de 2 ans et moins. Un massacre a été entrepris pour tuer tous les enfants hébreux à travers le pays. Exactement la même chose que Pharaon a fait pour attraper Moïse. S'il était un type de lui, il a massacré tous les enfants et il a manqué. Oh! Dieu sait comment les cacher. Oh, n'êtes-vous pas heureux d'être caché? Oh, une retraite. La Bible dit, « Regardez-vous comme mort au péché et vivant en Christ, caché en Christ et scellé et mis à part par le Saint-Esprit. » Le diable ne pourrait pas vous trouver s'il le devait. Il ne pourrait simplement pas le faire, voyez. Vous êtes caché en Christ. Regardez-vous comme mort et vos vies sont cachées en Christ, cachées en Dieu par Christ et scellées par le Saint-Esprit. Donc, ce reste était la Vierge endormie. de sa bouche, il lança de l'eau comme un fleuve pour faire la guerre au reste de la postérité de la femme. Oh, qu'est-ce qu'un reste? Bon, là, vous devez mettre ces types ensemble maintenant. Il y a une église qui est l'église naturelle. Je vais peut-être le dessiner ici et rendre cela un peu plus clair. Bon, frère Neville, si j'empiète sur ton temps, pardonne-moi, s'il te plaît. Je n'en ai pas. Maintenant, il y a... Rappelez-vous maintenant qu'il y a le quoi? L'incroyant. Je vais mettre ça ici. Incroyant. Et c'est le pécheur. Et en voici un autre qui est un formaliste. Je vais mettre F-O, l'église formaliste. Et puis voici l'autre qui est l'église sauvée. S-A, l'église sauvée. Maintenant, gardez-les à l'esprit constamment. Or, dans cette église sauvée, il y a deux classes. Dans cette église ici et juste ici, qui est typifiée par Christ, l'une d'elles était la Vierge endormie et l'autre avait de l'huile dans la lampe. Maintenant, vous tous, combien se souviennent de l'histoire? Nous allons y arriver dans une minute. Mais premièrement, avant de le faire, nous allons voir les 144 000 d'Apocalypse 7. Que ce soit vraiment compris. Bon, vous devez vous rappeler ceci. Et vous qui notez Apocalypse 7, prenons simplement notre temps et vous n'allez pas baptiser avant la fin de la réunion ce matin, d'accord? Je vais essayer de déposer ma montre ici et de surveiller l'heure pour qu'on puisse sortir à temps. Maintenant, nous avons presque 2 heures et que le Seigneur nous aide à apporter cette étude. Après ces choses, le chapitre 6 traite du cheval blanc, qui était le Saint-Esprit qui partit en vainqueur et pour vaincre. Puis vint le cheval pâle, la mort et l'enfer le suivaient. Et chacun ses cavaliers sur leurs chevaux. Maintenant, après ces choses, après cette grande destruction, premièrement, le Saint-Esprit traverse la terre en vainqueur et pour vaincre, puis vient celui du temps de la grande famine, une mesure de blé pour un denier, 2 mesures d'orge pour un denier, et ainsi de suite. Mais ne faites point de mal à l'huile et au vin, et ça continue jusqu'à ce qu'il ouvre ses seaux. Après cela, je vis 4 anges debout aux 4 coins de la terre. Ils retenaient les 4 vents afin qu'il ne soufflât point de vent sur la terre, ni sur la mer, ni sur aucun arbre. Et je vis un autre ange qui descendait du côté du soleil levant et qui tenait le sceau du Dieu vivant. Il cria d'une voix forte aux 4 anges à qui il avait été faire du mal. Il avait été donné de faire du mal à la mer et à la terre. Il dit, ne faites point de mal à la terre, ni à la mer, ni aux arbres, jusqu'à ce que nous ayons marqué du sceau le front des serviteurs de notre Dieu. Maintenant, souvenez-vous, les serviteurs ont toujours été les serviteurs de Dieu, sont les Juifs. Abraham était son serviteur. Les gens des nations ne sont pas des serviteurs, c'est une épouse, c'est un fils, c'est le fils, c'est ce qu'est l'Église. Les Juifs sont les serviteurs. Oh, si vous pouviez juste, si seulement on avait le temps de passer ces mots au peigne fin. Souvent, je le fais dans la pièce, là, j'examine toutes les références et ça devient clair. Les Juifs sont des serviteurs. Si je reste ici à parler tout ce temps sur un serviteur, je ne pourrais pas voir les autres points, vous voyez? Alors, n'oubliez pas, suivez ça d'un bout à l'autre de la Bible et vous verrez que le Juif est le serviteur de Dieu. Quel beau parallèle nous pourrions faire ici si nous voulions revenir à Ézéchiel 4 et voir là qu'il a dit « Pareille chose s'est-elle déjà vue? » Il a regardé les hautes murailles quand il a fait. Il a vu les abominations commises dans la ville. Et là sont arrivés, sont sortis 4 hommes armés de leurs instruments de destruction. Ils sont sortis pour détruire tout ce qui se trouvait dans la ville de Jérusalem. Et avant qu'il aille tout détruire, ils les ont retenus, ils les ont arrêtés, car il y en avait un autre qui était venu vêtu de blanc avec une écritoire. Combien déjà lu ça? La ceinture, Ézéchiel 4. Puis avec cet encrier d'écrivain à la ceinture, vêtu de blanc, il a dit, n'allez pas dans la ville, ne détruisez rien avant d'avoir marqué du sceau le front des serviteurs de Dieu. Et il est sorti, il a scellé, il a même dit les petits-enfants et tout, et il les a scellés. Et ceux qui avaient les instruments de destruction, 4 d'entre eux sont arrivés, sont entrés et ont démoli absolument tout, sans aucune pitié. Ils ont tué homme, femmes, enfants et tous ceux qui n'avaient pas le sceau de ce premier homme qui portait un encrier d'écrivain à la ceinture et qui avait scellé, et les grands, oh, c'était dans les jours qui suivirent la mort de notre Seigneur lorsqu'il les a avertis dans Matthieu 24. Quand vous verrez Jérusalem encerclée par des armées, ne descendez pas du toit ou de celui qui sera dans le champ, ne retourne pas en arrière pour prendre son manteau, mais fuyez en Judée. Joseph en donne les Écritures là-dedans et comment ils s'enfuirent. Et ceux qui se sont échappés étaient seulement ceux qui avaient accepté les paroles du Seigneur Jésus. Et quand ils ont vu les armées qui les encerclaient, et Titus en 96 après Jésus-Christ, lorsqu'ils ont vu Titus entourer les murs de Jérusalem, il les y enfermait tous, ils ont mangé les feuilles des arbres. Ils ont mangé l'écorce des arbres. Ils ont mangé l'herbe du sol. Ils ont même fait bouillir les enfants les uns des autres. Ils les ont mangés. Ils les laissaient mourir de faim. Ils les ont simplement emprisonnés là-dedans. Et finalement, ils sont entrés en courant. Ils ont massacré au point que le sang s'écoulait par la porte comme une piscine. Se vidait des flots de sang coulaient par la porte. Ils ont brûlé le temple, démoli les murs. Et c'est resté là jusqu'à ce jour. Et la mosquée musulmane d'Omar a été construite là où se trouvait le temple. Et Jésus en a parlé dans Matthieu 24. Il a dit, lorsque vous verrez l'abomination de la désolation dont a parlé le prophète Daniel, établi en lieu saint, puis c'est entre parenthèses, il a dit que celui qui lit fasse attention. Voyez, lorsque vous verrez cette abomination, voyez la souillure de la mosquée musulmane d'Omar établie là où se trouvait lieu saint autrefois. Et aujourd'hui, la mosquée musulmane se trouve exactement là où se trouvait le lieu saint, directement sur le site du temple. La mosquée musulmane se trouve là, comme Jésus l'avait dit, oui, comme Daniel l'avait dit, et Jésus a confirmé qu'elle y serait. Surveillez ces prophètes et Dieu là qui prédit ces choses, frères, cela devrait redresser les cheveux de notre nuque de savoir que nous sommes au temps de la fin. Nous sommes à la fin. Il n'y a plus rien. Toutes ces choses qui arrivent exactement comme il l'avait dit, eh bien, cela devrait nous encourager, nous préparer. Il a dit, Jésus nous a avertis. Il a dit, quand vous verrez ces choses arriver, comme celles dont nous parlons, il a dit, levez votre tête, parce que votre délivrance approche. Et à quoi cela nous servirait-il de gagner le monde entier? Nous allons le perdre de toute façon. On ne peut pas gagner comme ça. Il n'y a qu'une seule victoire, c'est par Christ. Acceptez Christ, alors vous êtes certain de gagner. Vous devriez partir d'ici. Vous devriez partir avant la fin de la réunion. Vous pourriez partir avant le coucher du soleil ce soir. Vous pourriez partir avant qu'il ne se lève le matin, avant dimanche prochain. Vous pourriez être parti. Nous tous, nous ne savons pas quand nous partirons, mais vous savez que vous devez partir. Alors, n'est-ce pas insensé de remettre ça à plus tard? Vous vous foulez, vous flirtez avec la mort. Comme le vieux toboggan qui glisse, ils avaient l'habitude de monter dans un toboggan et d'aller le plus près possible pour voir à quel point ils pouvaient s'en approcher. Et tout d'un coup, avant qu'ils ne s'en rendent compte, ils étaient en train de glisser. Et c'est ce que vous faites jusqu'à vous approcher le plus près possible. Vous ne pouvez pas passer quelques moments qui va vous perturber. Vous serez parti, un arrêt cardiaque, un accident d'automobile, n'importe quoi. Et ainsi, votre destination éternelle se trouve juste devant vous. Pensez-y, mon ami. Donc, lorsque vous verrez l'abomination de la désolation établie en lieu saint, dans les jours de la venue de Titus, après le départ de Jésus, le Saint-Esprit était cet homme qui portait un encrier d'écrivain à sa ceinture. Il a traversé Jérusalem et a marqué le peuple. Et maintenant, je veux que vous remarquiez quelque chose, membre d'Église. Vous prétendez avoir le Saint-Esprit? Il a dit, ne celle que ceux qui soupirent et gémissent à cause des abominations commises dans la ville. Or, où peut-on trouver quelqu'un d'accablé par les conditions actuelles du monde? Eh bien, je suis méthodiste, je suis baptiste, presbytérien, alors quelle différence cela fait-il? Oh, ils n'ont pas ce fardeau constant pour les perdus, cette douceur. Ne laissez jamais rien s'élever et mettre de l'amertume dans votre âme. Peu importe à quel point on vous maltraite ou quoi d'autre, jamais. Ne soyez pas coupable de laisser cette chose s'ancrer dans votre âme. Cela attristera le Saint-Esprit, l'éloignera de vous. Cela le fera, c'est sûr. Je me souviens d'avoir raconté ici, il y a 2 ou 3 ans, quelque chose qui était mal. C'était des avocats qui m'appelaient. J'allais, ma femme est assise là-bas. J'avais ma tête envoyée. J'avais l'impression de perdre la tête. Je suis revenu. Ils ont téléphoné. Ils ont dit, dites-lui que venez cet après-midi. Et Meda a dit, ce sont des avocats. Je me suis faufilé dehors et j'ai dit, dis-lui que je ne suis pas là. Il a dit, Bill, j'ai dit, dis-lui que je ne suis pas là. là en ce moment. Je suis sorti, puis je suis sorti, je me sentais très mal. Et je suis rentré, elle lui a dit, j'ai vu que je l'avais blessé. Je suis sorti pour prier, il y avait un homme qui était venu ici, qui avait un petit bébé malade, et au moment que je posais ma main sur ce bébé, quelque chose m'a dit, tu es un hypocrite, vous voyez? Tu sais ce que tu as fait? Et j'ai dit, monsieur, je ne suis pas digne de prier pour votre bébé. Vous voyez, le Saint-Esprit est attristé en moi, et ça ne servira à rien que je pose mes mains sur le bébé. Attendez juste que j'aille mettre quelque chose en ordre. Je suis allé le dire à mon avocat, j'ai mal agi, je pensais que vous étiez parti. Non, j'ai dit, c'était... J'ai fait en sorte que ma femme dise une chose de fausse. J'ai dit, je suis désolé, je ne voulais pas faire ça, je voulais me pardonner. Et j'ai demandé à ma femme de me pardonner, puis je suis retourné à Green's Mill, c'était en juillet, oh, c'était vraiment tranquille dans les bois, et j'ai passé tout l'après-midi dans la grotte à prier, puis je suis allé sur le rocher là-bas, et je pouvais voir au loin, par-dessus les collines, c'était si beau, et les feuilles et tout, juste le calme, il était environ 5 ou 6 heures de l'après-midi, en été, rien, c'était vraiment tranquille, une journée chaude, j'ai dit, Père Céleste, Moïse, tu lui as dit de se tenir sur le rocher une fois, tu y as passé. Si tu me pardonnes pour ce mal que j'ai fait, pourrais-tu passer à nouveau et me laisser te voir? Et juste à ma gauche, sur le flanc de la colline, un petit tour bruyant s'est mis à souffler tout doucement dans les feuilles. Il est venu tout droit à côté de moi comme ça. Il a traversé les bois et je pleurais simplement comme un bébé. Je suis redescendu, j'ai dit, je sais que mon péché m'est pardonné maintenant. Voyez, débarrassez-vous toujours de toute racine d'amertume, voyez. Peu importe de ce que quiconque vous fait, ayez simplement, seulement Dieu à l'intérieur et ça va garder tout le mal éloigné de vous. Donc, ces chrétiens qui avaient l'avertissement de Christ, vont remarquer un type de la chose dont nous parlons ce matin. Ces chrétiens qui avaient cet avertissement, ils ont quitté Jérusalem parce qu'ils savaient que c'était sur le point d'arriver. Maintenant, regardez les membres d'Église, le type de ceux qui allaient à l'Église, qui ne faisaient que joindre l'Église. Ils ont tous dit, eh bien, les armées arrivent, la guerre arrive, allons à la maison du Seigneur pour prier, mais c'était trop tard. Ça n'a servi à rien, voyez. Mais ils surveillaient l'avertissement, ses disciples, sachant ce que Jésus avait dit, et ils ont échappé. Les historiens ont dit ceux qu'on appelait cannibales. Ils ont dit ils ont mangé le corps de cet homme appelé Jésus qui les avait guéris. Vous voyez, ils prenaient la communion et ils ne savaient pas ce qu'il en était. Vous voyez, parce qu'il était un homme charnel, pas un croyant, seulement un historien. Ils ont échappé à la colère qui est venue sur la terre. Maintenant, vous voyez, tout Jérusalem a été détruite. Alors ça, c'est un parallèle parfait. Apocalypse, maintenant, regardez bien. Depuis l'époque où Titus a assiégé Jérusalem dans le monde, il n'y a pas eu un temps dans l'histoire où le monde entier est entré en guerre avant 1914. Maintenant, écoutez bien. C'est ici que M. Rutherford s'est égaré, j'en suis sûr, juste ici. Maintenant, regardez bien. Après cela, je vis un autre ange, de quatre anges debout aux quatre coins de la terre. Debout comme ceci, aux quatre coins de la terre. Il retenait les quatre vents de la terre. Bon, quelqu'un sait que le vent signifie dans la Bible? Vent est guerre, lutte, le démon est le prince de la puissance de l'air, voyez? Il retenait les quatre vents afin qu'il ne soufflât point de vent sur la terre. Et un autre ange qui montait du côté du soleil levant, d'où Jésus viendra, et qui tenait le sceau du Dieu vivant dans son coup droit, dans sa main. Il cria d'une voix forte aux quatre anges qui allaient détruire le monde, disant qu'il avait été donné de faire du mal à la mer et à la terre. Ne faites point de mal à la terre, ni à la mer, ni à jusqu'à ce que nous ayons marqué du sceau le front des serviteurs de notre Dieu. Or, Dieu n'a pas de temps. Il est l'éternité. Nous mesurons par le temps. Tout ce que nous connaissons, ce sont les pouces et les carrés, les kilomètres, et ainsi de suite. Dieu est éternité sans commencement ni fin. Vous voyez, il est éternel. Maintenant, en 1914, le monde entier est entré dans une guerre mondiale en Allemagne. C'est vrai. Le monde entier dans une guerre mondiale. L'avez-vous remarqué? C'était vraiment étrange. Je veux que mon bon ami assis ici, le père Fraywood, comprenne ceci. Vous voyez, c'est un témoin de Jéhovah converti, vous voyez. Ainsi, ils allaient tous à la guerre. Vous vous en souvenez bien, en 1914, oui, n'est-il pas étrange, dans le déclin de la guerre mondiale, j'en ai les volumes, dans le volume 2, vers la page 44, qu'ils ne savent pas encore aujourd'hui qui a arrêté cette guerre. Kaiser Wilhelm a dit qu'il n'a jamais promulgué une telle chose, mais tout d'un coup, elle s'est arrêtée et personne ne sait pourquoi. Ils se battaient, et voici que les au front et les tout arrive, c'était fini. La guerre était finie. Ils avaient déjà signé un traité de paix sans savoir ce qui s'était passé. Bon, bien sûr, ça prendrait un jour ou deux pour amener tout ça. Ils ne savaient pas, mais selon la chose, et voyons, hein, les points importants, c'est Dieu qui l'a arrêté pour accomplir sa parole. C'est cet ange qui l'a arrêté. Ces anges sont sortis avec un instrument de destruction. Pourquoi? Pour détruire le monde entier. Et un autre ange a dit, « Attendez une minute, ne faites pas ça. Nous devons d'abord sceller le front des serviteurs de notre Dieu. » C'était juste au début de la Pentecôte, en 1906-1914 environ. Combien d'entre vous le savent? Est-ce qu'il y a un vieux pentecôtiste ici qui se souvient de ces jours-là? Certainement, quand cela, c'est tout début de que le Saint-Esprit a commencé à tomber, que les gens commençaient à recevoir le Saint-Esprit et à parler en langue et à prier pour les malades, et ainsi de suite. Cela commençait tout juste à se produire, ou juste entre ces deux âges ici, quand c'est apparu, l'Église était réelle. Puis les pentecôtistes ont commencé à former des dénominations, les assemblées de Dieu, l'Église de Dieu, et ainsi de suite. Ils se sont mis à dévier dans l'isme et tout ce qu'ils sont maintenant. Donc, c'est, nous sommes à la fin de l'âge, vous voyez. Tout se dirige vers la fin. Tout se déroule ainsi jusqu'à la fin. Maintenant, ceux-ci, les quatre, remarquez, elle s'est arrêtée le 11 novembre à 11 heures du jour, le 11e mois de l'année, le 11e jour du mois et à la 11e heure du jour. Vous souvenez-vous de ce que Jésus a dit à ce sujet? Une fois, quelqu'un est allé travailler à la vigne, l'un a reçu un denier, le second est allé, c'était les gens de la 11e heure, pas vrai? Les voilà, les gens de la 11e heure, cela avait été retenu. Maintenant, il est temps pour eux d'entrer, et puis ils rassemblent ces Juifs pour former une nation. Ils étaient dispersés dans le monde entier, en Iran et dans différents endroits. Ils ne savaient même pas que Jésus était sur la terre. Ils n'avaient jamais entendu parler d'un Nouveau Testament ou autre. Et maintenant, vous pouvez regarder dans la revue Look and Life et autres des photos montrant qu'ils reviennent. Jésus ne l'a-t-il pas dit quand vous verrez le figuier bourgeonner? Les Juifs ont toujours été le figuier. Cette génération ne passera point que tout cela arrive. Et maintenant, ils sont déjà de retour, déjà une nation. Ils ont déjà leur propre monnaie et leur propre drapeau et tout. Ils sont reconnus à l'ONU. Ils sont une nation. Elle est installée. Elle est prête. Maintenant, prête pour quoi? Le scellement des 144 000. Bon, nous y reviendrons dans une minute. D'Israël, des Juifs, et non pas la bande de Wall Street qui a toujours triché et volé et tout. Je veux dire, les vrais Juifs intègres, les vrais Juifs qui gardent les commandements de Dieu là-bas. Et les vrais Juifs se rassemblent de nouveau en Palestine, et c'est exactement ce qu'a dit le prophète, car Ismaël et Isaac étaient toujours en guerre l'un contre l'autre, toujours en train de se battre. C'est prédit qu'ils seraient là dans les derniers jours, et ils y sont. Ismaël juste ici, et environ un pâté de maison plus loin, c'est Isaac, et les deux Mahométans et Juifs se battent l'un contre l'autre dans un no man's land. Maintenant, pour voir si ce message que nous avons y est relié ou pas, à l'heure même où Israël a signé pour devenir une nation, c'était à la même heure, le même jour, le même mois, tout le reste. J'étais à Greensville, Indiana, quand cet ange m'est apparu et m'a envoyé sur le terrain avec ceci. Après qu'il m'ait rencontré à la rivière, il m'a dit que s'il allait se passer, puis il m'a commissionné 11 ans plus tard, au même moment où Israël était accepté en tant que nation. Tout ça va ensemble. Voyez, l'ange du Seigneur est sur la terre maintenant. Voyez, il se déplace et prépare tout pour la venue du Seigneur. Et ce sont les mêmes anges qui ont entendu le péché quand ils sont descendus à Sodome et qu'ils ont trouvé, ils ont dit, nous sommes descendus voir si ces choses sont vraies, ce que nous avons entendu, vous vous en souvenez? Et un ange est descendu, l'un est resté avec Abraham, l'élu. Sodome était ici et Lot était à Sodome. Et deux anges sont descendus là-bas pour leur prêcher et ils ont fait sortir ce tout petit groupe, une vierge endormie, vous voyez? Très bien. Mais l'ange qui était resté avec Abraham, Ces anges ont prêché ici, Billy Graham moderne et tous ceux-là. Ils les ont fait sortir de là, mais l'ange qui était avec Abraham avait le dos tourné à la tente. Il a dit, « Abraham, où est ta femme Sarah? » Comment savait-il qu'elle était mariée, qu'il était marié? Et comment savait-il qu'il y avait une femme et comment elle connaissait son nom? Son nom, c'était Sarah. Il a dit, « Elle est dans la tente derrière toi. » Il a dit, « Eh bien, je t'ai fait une promesse. » Vous voyez qui était l'ange? « Je t'ai fait une promesse. » Je reviendrai vers toi à cette même époque et voici Sarah aura ce bébé. Et Sarah, dans la tente derrière lui, rit en elle-même. Et l'ange, ayant le dos tourné, a dit, « Pourquoi Sarah a-t-elle ri? » Voyez le signe qu'il a donné à l'Église élue. Voyez le signe qu'ils ont eu à Sodome. Voilà vos trois classes de nouveau. Nous les revoyons encore. Nous avons ces grands ministres qui couvrent le monde là-dehors. Après que Billy Graham ait reçu le Saint-Esprit, il ne pouvait pas venir ici. C'est son champ là-bas et il le reconnaît et Dieu le retient là. Voyez? Avec cette prédiction intellectuelle, la chose qu'il entend ici, mais il essaie de secouer Sodome, de secouer ou de donner grâce à cette vierge endormie, voyez? Mais voici Abraham et sa classe et Jésus a dit, ce qui arrivera du temps de Sodome arrivera même à la venue du Fils de l'homme. Voyez, ces anges seront ici sur la terre faisant la même chose. Voyez, c'est pour ça que Billy va chez les baptistes et les autres comme ça, il le faut. Voyez, Jack Schuller et tous ces grands hommes, ces hommes qui vont, les revivalistes, ils doivent le faire parce qu'ils sont en train de les secouer. Ils n'ont jamais fait de miracle là-bas, très peu, comme les gens frappés d'aveuglement. Mais prêcher l'Évangile les rend aveugles. Voyez, la Bible dit. Mais cet homme ici a fait ses signes, un signe surnaturel pour Abraham et les siens, qui est l'Église élue. Or, en 1914, le monde est entré en guerre. Ils n'ont jamais été en paix depuis. Sans cesse, ballottés, et ils font encore exactement la même chose. Et que faisaient-ils? Ils retenaient. Oh, Dieu, aie pitié. Ils retiennent cette grande chose que j'ai vue dans la vision. Toute la chose arrive à la destruction. Ils retiennent l'atomique, retiennent les guerres afin qu'ils ne se détruisent pas avant que la chose vienne pour les détruire, avant qu'Israël revienne et se rassemble. Ensuite, le message ira en Israël et il sera scellé de ce sceau du Saint-Esprit. Voyez, après que les gentils soient appelés, le peuple sera appelé à sortir à cause de son nom qui est en cet âge-ci, ils sont appelés. Alors Israël recevra un message de 3 ans et 6 mois seulement. Daniel le dit, il a dit qu'il serait, il y avait 70 ou 7 années qui leur furent prophétisées, qui restent pour le salut des Juifs. Il a dit, le Messie, le Prince, qui est Christ, viendra et prophétisera, et au milieu de ses 70 ans ou 7 ans, il sera retranché. Jésus a prêché 3 ans et demi et a été retranché. Et le sacrifice quotidien a été enlevé, comme Daniel l'avait dit, très bien. Il y a eu alors une période accordée aux gens des nations et ils l'ont juste à cet âge-ci. Ensuite, il reste encore 3 ans et demi pour les Juifs. Maintenant, si nous allons à Apocalypse 11, nous prendrons exactement la fin. L'Église n'apparaît plus avant le chapitre 19 de l'Apocalypse, mais à la fin de cela, Élie et Moïse reviennent prêcher aux Juifs. Deux hommes moins de cet esprit, ou peut-être eux-mêmes, ils ne sont jamais morts. Ils les tuèrent, ils gisaient dans la rue appelée Sodome, où notre Seigneur a été crucifié à Jérusalem. Et après 3 jours, eh bien, la vie, l'esprit de vie est venu en eux, et ils se levèrent et ressuscitèrent. Et puis environ 1/3 de la terre a été réduit en pièces à ce moment-là. Ils font des miracles et des signes avec les Juifs. Voici maintenant les Juifs qui viennent y prêcher. Le monde ne pourrait pas se faire sauter l'un l'autre ou s'entretuer ou la destruction venir avant que ces Juifs reviennent à cet endroit. Voici la Bible qui le dit. Il a vu les 4 anges. Et regardez ce qu'ils doivent recevoir. Ils doivent recevoir le Saint-Esprit, exactement comme eux. Si l'homme avec l'encrier du cruvien à la ceinture était le Saint-Esprit, nous le savons, tout le monde le lit dans la Bible. Bon, c'est le mien. Le même ange qui revient avec le Saint-Esprit, le sceau du Dieu vivant, Éphésiens 4:30. Le Saint-Esprit de Dieu, scellé jusqu'au jour de votre rédemption. Ils ne peuvent rien faire avant le retour de ces Juifs. Il y a quelques semaines à peine qu'ils les ont réglé la chose ensemble et ils font partie de l'ONU. C'est prêt. Nous sommes à la fin. Tout est scellé maintenant. Bon, maintenant, regardez, pour prouver qu'ils sont Juifs, maintenant, je vais prendre Il dit, ne faites point de mal à la terre, ni à la mer, ni aux arbres, jusqu'à ce que nous ayons marqué du sceau le front des serviteurs de notre Dieu. Maintenant, pour prouver que cette révélation est juste, regardez ici le verset 4. J'ai entendu le nombre de ceux marqués du sceau, 144 000 de toutes les tribus des fils d'Israël. Les Israélites, où sont-ils? Ils viennent juste de se rassembler. Ils sont prêts là-bas, attendant l'heure du scellement. De la tribu de Judas, 12 000 marqués du sceau. De la tribu de Ruben, 12 000. De la tribu de Gad, 12 000. De la tribu d'Azer, 12 000. De la tribu de Naphtali, 12 000. Et ainsi de suite, Siméon, jusqu'à Benjamin, les 12 tribus. Et 12 fois 12 donne 144 000. Voyez? Maintenant, c'est celui-là. Bon, si vous regardez au chapitre 14, un instant, vous verrez ici. Je regardais et voici l'agneau se tenait sur mon Sinaï, et avec lui 144 000 personnes qui avaient le nom de son père écrit sur leur front. Le mont Sinaï, l'agneau était revenu après l'enlèvement et revenu comme nous l'avons vu l'autre soir quand Joseph a renvoyé tous les gens des nations quand il était avec ses frères. Il a dit, « Je suis Joseph, votre frère. » Et là, ils ont eu peur. Vous vous souvenez dans l'âge de l'Église, nous l'avons vu, quand il allait revenir, même ceux qui ont percé ses mains, ils diront, « D'où viennent ces marques de clous? » Il a dit, « Des mains de mes amis. » Ils se sont lamentés. Chaque famille se sépara l'une de l'autre et pleura parce qu'elles avaient fait ce mal. Leur Messie, le Dieu même, il leur dira la même chose qu'il a dit à, que Joseph a dit à Israël. Ne vous fâchez pas contre vous-même, car Dieu a fait cela pour préserver la vie. Et Dieu, la Bible dit que Dieu a aveuglé les yeux des Juifs pour que les gens des nations aient une chance. Nous-mêmes, nous prendre un peuple à la gloire de son nom, son épouse parmi les gentils. Oh, c'est merveilleux, n'est-ce pas? C'est cela. Voilà vos 144. Maintenant, si vous voulez voir l'épouse monter après cela pour montrer les 144 000 ne sont pas l'épouse, continuez simplement à lire à partir du 8e chapitre, oui, le chapitre 8 ou le verset 8, je veux dire à partir du chapitre 7. Commençons au verset 9, car le verset 8 est le scellement de Benjamin, 12 000. Après cela, je regardais et voici, il y avait une grande foule que personne ne pouvait compter. Voici l'épouse. De toutes nations, tribus, peuples et de toutes langues, ils se tenaient devant le trône et devant l'agneau, revêtus de robes blanches et des palmes dans leurs mains. Et ils criaient d'une voix forte en disant, « Le salut est à notre Dieu qui est assis sur le trône et à l'agneau. » Tous les anges se tenaient autour du trône. Et des vieillards et des quatre êtres vivants se prosternèrent sur leur face devant le trône et ils adorèrent Dieu en disant, « Amen, la louange, la gloire, la sagesse, l'action de grâce, l'honneur, la puissance et la force soient à notre Dieu au siècle des siècles. Amen. » Et l'un des vieillards prit la parole et me dit, « Ceux qui sont revêtus de robes blanches, qui sont-ils et d'où sont-ils venus? » Je lui dis, « Mon Seigneur, tu le sais. » Il me dit, « Ce sont ceux qui viennent de la grande tribulation. Ils ont lavé leurs robes et ils les ont blanchies dans le sang de l'agneau. C'est pour cela qu'ils sont devant le trône de Dieu et le servent jour et nuit dans son temple. » Voyez? Que fait votre femme? Elle vous sert à la maison. Vous vous asseyez, elle vous donne à manger, elle prépare les vêtements. Voyez? Elle vous sert jour et nuit à la maison. Voyez? Et celle-ci, celle de toutes les nations, les gens des nations qui sont l'épouse, sont devant le trône de Dieu avec lui jour et nuit. Vous vous souvenez tous de ce qu'on a dit hier soir, nous avons parlé de ça. Et celui qui est assis sur le trône dressera sa tente sur eux. Ils n'auront plus faim, ils n'auront plus soif, et le soleil ne les frappera point, ni aucune chaleur. Car l'agneau qui est au milieu du trône les paîtra et les conduira aux sources des eaux de la vie, et Dieu essuiera toute l'âme de leurs yeux. Maintenant, voici vos 144 000 Israël qui attendent la venue du Seigneur et qui ne peuvent pas entrer avant que ce soit terminé pour les nations. Ça doit être terminé. Mais je pourrais dire un petit quelque chose de personnel. J'espère que vous le comprendrez. Quand Louis Petrus de Stockholm, en Suède, le surveillant général, chef des églises Philadelphia, a envoyé 1 million de Bibles à 16 Juifs, des Petits Testaments. J'en ai un là-haut, un petit souvenir de lui. Le Juif lit toujours de la fin vers le début, et enfin, vous savez comment est leur langue. Il lisait ses livres, il disait, eh bien, si ce Jésus est le Messie, s'il est mort et que son esprit est revenu sous forme de l'esprit, voyons le faire le signe du prophète, alors nous le croirons. Quelle mise en scène! Je me suis dit, Seigneur, le temps est arrivé. C'est le moment, ça y est. Ainsi, nous avons pris l'avion, Billy et moi, Lois, sommes partis. J'allais me rendre en Inde et j'ai dit maintenant, sur le chemin de retour, je vais m'arrêter ici et apporter le message aux Juifs et leur demander, est-ce vrai? Les Juifs croient toujours leurs prophètes, nous le savons tous, car Dieu leur a dit que le Messie serait un prophète. Et ils croient leur prophète, et Dieu a dit, s'il y a parmi vous quelqu'un qui est prophète, un voyant, si je lui parlerai par la vision, et ainsi de suite, et si ce qu'il dit s'accomplit, alors écoutez-le, car je suis avec lui. Mais si ça ne s'accomplit pas, alors n'ayez rien à voir avec ce prophète, parce que je ne suis pas avec lui. Mais si ce qu'il dit s'accomplit, alors écoutez-le, car je suis avec lui. Les Juifs savent cela. J'ai pensé, oh là là, ce ne serait-ce pas merveilleux, je vais en procurer 4 ou 5 000, me tenir là et le laisser lire la Bible, et je vais dire, si ceci est le Messie, voyons-le accomplir le signe du prophète. J'ai dit, quelle mise en scène ce sera. J'avais mon billet à la main, juste une trentaine de minutes avant l'appel de la ligne aérienne arabe, où je me trouvais là-bas au Caire, en Égypte, et j'ai dit, pensez, gloire à Dieu. Dans 2 heures, les Juifs vont recevoir la même chose qu'ils ont reçue à la Pentecôte, ça c'est certain. J'ai pensé, si je peux m'y trouver et leur dire, allez chercher un groupe d'hommes parmi vous et amenez ici, s'il est encore le Messie, voyez. Et puis je dirai, maintenant, sur le territoire même où vos ancêtres ont rejeté ce Messie, recevez-le, levez les mains, vous recevrez le Saint-Esprit maintenant même. Et alors, ils évangéliseront le monde dans leur partie du monde une fois qu'ils le recevront. Rejoignez les dirigeants, frappez le centre nerveux principal, les conducteurs, qu'eux le propagent. Et quelque chose m'a frappé, il m'a dit, n'y va pas maintenant, car ce n'est pas encore l'heure. Les gentils ne sont pas au complet, voyez. Leur temps n'est pas fini. Oh, j'ai pensé que c'était juste moi. Alors j'ai continué et c'est devenu si intense que je ne pouvais tout simplement plus supporter. Je suis allé derrière en gare, j'ai incliné la tête, j'ai dit, Père, est-ce que c'est toi qui me parles? Il a dit, ne va pas en Israël maintenant, ce n'est pas encore le temps. Je suis rentré, j'ai changé mon billet pour une autre destination et puis une autre direction. Vous voyez, car l'heure n'est pas encore venue. Mais un de ces jours, le message ira en Israël et je sais que ça se produira. Dieu leur enverra Moïse et Élie dans Apocalypse 11 et ils feront les signes et les prodiges et le signe de Jéhovah quand les nations seront au complet, la grâce, le jour de la grâce quittera l'Église des gentils, l'âge pentecôtiste sera terminé, les dénominations vont continuer parce qu'elles se trouvent ici avec la Vierge endormie. On va y revenir dans un instant, mais elles seront classées dans ce groupe. Mais là, quand elles le feront, pendant qu'elles le feront, les Juifs recevront le baptême du Saint-Esprit. Il y aura un réveil là qui arrêtera les cieux comme au jour de... Il n'y aura plus de pluie. Ils feront toutes sortes de signes et de prodiges. Et finalement, la hiérarchie romaine, les Juifs possèdent les richesses du monde. Et donc, l'Église catholique romaine rompra son accord avec les Juifs. Et après cela, il y aura le traité qu'ils ont signé entre eux. Et il ira là-bas. Et alors... C'est là que Dieu combattra comme il le faisait dans le temps pour Israël. Ils tueront finalement ces deux prophètes et leurs cadavres resteront dans la rue. Ils cracheront sur eux comme ils l'ont fait pour ce pasteur pentecôtiste, sa femme et ses enfants. Il y a quelques semaines, avec le petit ventre gonflé comme ça, les enfants passaient et crachaient sur eux, les seins tendus, là, sous le soleil chaud, pendant 3 ou 4 jours sans les enterrer. Ils feront la même chose, la Bible le dit. Ils feront la même chose là, et quand ils feront cela, après 3 jours étant du mort, l'Esprit de vie viendra dans ces deux prophètes, et les ressusciteront et monteront dans la gloire. Et là, à peu près en même temps, le feu d'artifice commencera. Ce sera la fin des temps. C'est quand ce sera fini. Mais avant que cela n'arrive, les gentils, l'épouse élue, certains d'entre vous seront assis sur une table un de ces matins. L'un sera pris, l'autre laissé. Vous allez finalement vous demander, qu'est-ce qu'il y a? Peut-être que vous serez en voiture parlant à quelqu'un, à votre femme ou à votre mari sur le siège. Ils ne répondront pas. Ils ne seront plus là. Vous courez au cimetière. Il y aura des tombes ouvertes, les autres encore fermées, car le reste des morts ne vécurent pas pendant 1000 ans. Souvenez-vous, c'est terminé alors. Ce sera une venue secrète. Personne ne saura quand il va se produire. Nous avons reçu l'ordre d'être prêts et de veiller. On ne sait pas à quelle heure. Mais quoi qu'il en soit, nous ne devancerons aucun de ceux-ci à leur retour ici, car dès que Jésus apparaît, la vieille entière se lève. Mort ou vivant, peu importe. Nous ne le rencontrons pas en premier, nous le rencontrons les uns les autres d'abord. La Bible dit, Éphésiens, chapitre 5, elle dit, « Nous, les vivants, restés pour l'avènement du Seigneur, nous ne devancerons pas ceux qui ont... ou n'empêcheront pas ceux qui sont morts. Ces gens précieux qui ont scellé leur sang, ont scellé leur témoignage de leur sang, nous ne devancerons, nous n'empêcherons pas ceux qui sont morts, car la trompette sonnera, quelque chose se produira, l'Évangile, quelque chose retentira, l'annonce de sa venue, et les morts en Christ ressusciteront premièrement. Et nous, les vivants qui serons restés, serons changés. Être là et sentir un changement s'opérer. Les cheveux gris s'en vont. Les rides disparaissent. Être changé en un instant, en un clin d'œil. Et nous verrons nos proches premièrement. Voilà maman, papa, voilà mon ami. Oh, alléluia, nous sommes prêts. Et alors, avec ceux qui étaient morts, dit l'Écriture, nous serons enlevés dans les airs à la rencontre du Seigneur. L'ordre de la venue. Oh, de revoir mon vieux papa, oh là là, de revoir ces êtres chers qui s'en sont allés dans la foi là-bas et les revoir. Voyez la grandesse de Dieu, sachant que nous, si nous le rencontrions premier, nous nous demanderions, maman, y est-il? Est-ce que maman y est arrivée? Nous avons prêché si durement, nous avons essayé, elle était là, est-ce qu'on le joue est là, est-ce que le frère est là, est-ce qu'un tel est là? Voyez, Seigneur, nous t'aimons, mais premièrement, nous allons nous rencontrer les uns les autres. Oh, pas d'inquiétude à ce sujet, nous sommes tous là. Pas étonnant qu'ils se tiennent debout et disent, amen, gloire, sagesse, honneur, puissance et force. Les 24 vieillards ôtèrent leur couronne et se prosternèrent comme cela. Ils se prosternèrent tous et l'adorèrent. Un de ces jours, nous nous tiendrons au-delà de la terre, là-bas, l'anneau de la terre, là-bas, quelque part dans l'espace, et nous ne serons pas encore au ciel. Nous serons enlevés pour le rencontrer dans les airs. Quand Rebecca a décidé, rapidement décidé qu'elle irait avec Eliezer sur le chameau à la rencontre de Jacob ou d'Isaac qui était pour être son mari. Elle ne l'avait jamais vu. Elle savait que Dieu la conduisait. Le fils de Jacob ou Isaac revenait du champ à la fraîcheur du soir. Souvenez-vous, c'était au temps du soir. Et Rebecca venait à d'autres chameaux. Eliezer a dit, « Le voilà qui vient. » Rebecca a sauté du chameau, a ôté le voile de son visage. Elle ne l'avait jamais vu. Elle ne savait pas. C'était son mari, mais elle ne l'avait jamais vu. Elle l'a rencontré par la foi. Je ne sais pas ce qu'il a l'air, mais oh, quand je le verrai. Et là dehors, quand elle l'a vu, c'était le coup de foudre. Elle ne l'avait jamais vu. Quand il l'a vu, le coup de foudre. Et les voilà qui se rencontrent dans les champs. Et il l'a fait entrer pour être dans le royaume de son père. Ici, il l'a épousée. C'est ainsi que l'Église sera enlevée dans les airs, au milieu des airs, et rencontrera le Seigneur comme il descendra. Oh, quelle idylle ce sera! Le coup de foudre! Et quand nous nous tiendrons là sur les anneaux de cette terre et que nous chanterons ces chants de rédemption, oh là là, comme nous chanterons et le louerons pour notre la grâce rédemptrice qu'il nous a donnée, quand les anges couvriront les côtés du cercle de la terre, leur tête inclinée, ne sachant pas de quoi nous parlons. Les anges n'ont jamais été perdus. Ils ne sauront pas de ce que c'est d'être sauvés. Nous étions ceux qui étaient perdus. Si c'est nous qui étions perdus, nous comprendrons alors quelle horrible chose nous attendait. Il nous aura rachetés par son sang et toute race, langue et nation. Quel jour de ce sera? J'aime ce chant qui dit, il y aura une rencontre dans les airs, dans le doux au-delà. Je vous rencontrerai, vous saluerez là-bas dans cette demeure éternelle. Des chants comme jamais mortel n'a entendu. Ce sera glorieux, je vous le dis, quand le Fils de Dieu lui-même dirigera cette rencontre dans les airs. Oh! On vous a parlé de Moïse dans les roseaux. On vous a parlé de David et sa fronde. On vous a parlé de Joseph et de ses songes et de Daniel et les lions que nous chantons. Il y en a plusieurs autres dans la Bible. et j'aimerais les rencontrer. Je vous le dis, c'est vrai. Et quelle joie lorsque nous les verrons à cette rencontre dans les airs. On attend ce jour-là. Voilà vos 144 000 qui reçoivent l'Évangile après nous. Ils ne peuvent pas le recevoir en même temps que la lumière est sur le gentil. Les Juifs le nient et le cachent. Maintenant, quand la lumière, les gentils sont enlevés, alors l'Esprit viendra sur les deux pour leur rendre témoignage là. Les Juifs la recevront, soit 144 000 des tribus perdues d'Israël qui recevront l'Évangile et l'épouse est partie. Maintenant, il y a 10 vierges. Abordons Matthieu 21 à l'heure. Vous voyez, on a encore un peu de temps. Oh, j'aime la Bible. Quand je vais partir en vacances, quand je vais partir en vacances pour le ciel, quel merveilleux voyage ce sera d'entendre les concerts du chœur céleste et les portes de mon... de voir le visage de mon Sauveur, de m'asseoir sur les bords de la rivière, sous l'ombre de l'arbre toujours vert. Je veux passer mes vacances au ciel. Ne viendrez-vous pas passer les vôtres avec moi? Maintenant, dans le livre de Matthieu, je crois au chapitre 25, je pense, il dit 21, n'est-ce pas? Je l'avais noté ici 21, mais c'est inexact, c'est 25. J'ai dû me dépêcher ce matin, j'étais levé fatigué, j'étais en retard et je me dépêchais, je notais quelques écritures et j'ai écrit 21 alors que c'est 25. Alors, le royaume des cieux sera semblable à 10 vierges qui, ayant pris leur lampe, allèrent à la rencontre de l'époux. Maintenant, 5 d'entre elles étaient folles et 5 sages. Les folles, en prenant leur lampe, ne prirent point d'huile avec elles. Mais les sages prirent avec leur lampe de l'huile dans les vases. Comme l'époux tardait, c'est à travers ces âges de l'Église, elles s'assoupirent et s'endormirent. Tout au long des âges, mourut, s'assoupirent et s'endormirent. Vous voyez, à travers les âges, elles ne sont pas perdues, mais sont juste assoupies et endormies. Elles attendaient, vous voyez, on ne dit pas qu'elles étaient mortes, mais elles s'assoupirent et s'endormirent, vous voyez. Au milieu de la nuit, on cria, « Voici l'époux, allez à sa rencontre. » Alors toutes ces vierges se réveillèrent et préparèrent leurs lampes, leurs folles dire aux sages, « Donnez-nous de votre huile, car nos lampes s'éteignent. » Les sages répondirent, « Non, il n'y en aura pas assez pour nous et pour vous. Allez plutôt chez ceux qui en vendent et achetez-en pour vous. » Pardon. Pendant qu'elles allaient en acheter, l'époux arriva. Celles qui étaient prêtes entrèrent avec lui dans la salle des noces et la porte fut fermée. Ensuite, vinrent aussi les autres vierges en disant, « Seigneur, Seigneur, ouvre-nous. » Maintenant, vous voyez, ce n'étaient pas des incroyants, c'était des gens bien. « Ouvre-nous. » Mais la réponse, et il répondit, « Je vous le dis en vérité, je ne vous connais pas. Veillez donc, puisque vous ne savez ni le jour ni l'heure où viendra le Fils de l'homme. » Maintenant, les 5 vierges sages. Ici, l'huile dans la Bible représente le Saint-Esprit. Nous le savons tous. C'est pourquoi nous voyons les malades d'huile. L'huile représente le Saint-Esprit. Ainsi, les sages avaient de l'huile dans leur lampe, c'est-à-dire le Saint-Esprit, et elles étaient prêtes à aller au souper des noces. Et nous pourrions retourner dans Ézéchiel 9, et ainsi de suite, et le faire ressortir et montrer, mais j'ai une quinzaine d'autres écritures ici. Donc l'huile, je crois qu'on a déjà vu dans notre classe cette semaine que l'huile est représentée le Saint-Esprit. Nous le savons tous. Observez ici, tous les deux étaient vierges. Maintenant, laissez-moi prendre ça. Ici, prenons ceux deux-là. C'est une vierge, c'est une vierge. Celle-ci, une vierge folle. Celle-ci, une vierge sage. Mais les deux sont vierges. Maintenant, si vous prenez ce mot « vierge » et que vous l'approfondissiez, il signifie, il veut dire « sainte, pure, sanctifiée ». Le mot sanctifié vient du mot saint, qui signifie pur. Comme le mot hébreu, maintenant, c'est un mot grec. Sanctifié signifie pur. Or, le mot hébreu est rendu saint, voyez. Et le nôtre est pur. Maintenant, ils prennent les trois mots, comme si chaque mot avait la même signification, mais c'est prononcé différemment. Comme le mot pur, pur, saint, sanctifié. Tous les trois sont le même mot, comme si nous allions prononcer le mot chien. Je dirais dog, c'est de l'anglais. Je disais chien en allemand, Fred, c'est Hund. Est-ce juste, Fred Norman? Si je disais chien en espagnol, c'est Hajo. Hajo, Hund and dog. C'est toujours chien pour nous, vous voyez? C'est simplement une expression. Or, le mot grec pour purifier est sanctifié. Le mot hébreu est saint. Saint, pur et sanctifié, c'est le même mot. Ce n'était donc pas une église souillée et sale. C'était une église sanctifiée et pure. 10 vierges sont sorties à la rencontre de l'époux. Qu'est-ce que ça signifie? Toutes ces églises ici, pas, bon, ici en bas dans la romaine, mais dans la dénominationnelle. Les Nicolaïtes, les baptistes prêchent la seconde venue de Christ. Les méthodistes prêchent la seconde venue de Christ. Les presbytériens prêchent la seconde venue de Christ. Les nazaréens prêchent la seconde venue de Christ. Les pèlerins de la sainteté prêchent la seconde venue de Christ. N'est-ce pas? Elles sont toutes parties à la rencontre de l'époux. Maintenant, vous rappelez-vous qu'elles étaient toutes en route pour rencontrer l'époux. Maintenant, si Dieu ne respecte que cela, alors il doit le prendre aussi. Mais rappelez-vous la même chose dans la parabole de l'autre soir quand Dieu nous a parlé dans l'âge de l'Église en disant « Une grande et belle nation organisée, il croyait en Dieu parce que, regardez ce que Balak a fait, il est descendu, il a offert la... » Parce que, regardez ce que Balak a fait quand il est descendu, Balaam plutôt, il a offert le même sacrifice au même Dieu qu'Israël, le Dieu d'Israël, Jéhovah. Il a bâti 7 autels. 7 est le nombre de l'achèvement de Dieu. Il a travaillé 6 jours. Il s'est reposé 7e. C'était achevé. Vous voyez, 7. Durant 6 jours, il a créé le monde. Le premier, 2000 ans, il a été détruit par l'eau. Le deuxième, 1000, Christ est venu. C'est le troisième, 2000 ans maintenant. À la fin de chaque 2000 ans, il se passe quelque chose. Le monde est à nouveau secoué. En 6000 ans, il a créé le monde. Durant 6000 ans, l'Église a œuvré contre le monde. Et le 7e mille ans est ce règne du millénium. Vous comprenez maintenant? Bon, l'Église a 7 âges de l'Église aussi. Dieu, et c'est le nombre complet de l'âge de l'Église. C'est terminé à 7. 7 est le nombre de l'achèvement pour Dieu. 7 âges de l'Église, 7000 ans de création, tout relié au chiffre 7. Or, ces vierges sont parties à sa rencontre, les vierges folles, maintenant, n'avaient pas d'huile dans leur lampe, mais elles avaient tout le reste. Elles étaient pures, elles croyaient en Christ, elles prêchaient la parole qu'elles croyaient, qu'elles prêchaient ce que leur dénomination les laissait prêcher, la seconde venue, le sacrifice, l'expiation. Elles croient. Discutez avec un bon érudit baptiste une fois, ouf. Vous feriez mieux de savoir de quoi vous parlez. Oh oui, sûr que oui. Mais voyez, si près, dit Matthieu 24, Matthieu 24, 24, lisez-le tout de suite. Et vous verrez, Jésus a dit qu'en ces derniers jours, les deux esprits seraient si proches l'un de l'autre au point de séduire les élus si c'était possible. Ce sera si proche que ça balancera ses pentecôtistes comme si de rien n'était. C'est sûr. Maintenant, Matthieu 24, 24, est-ce que quelqu'un l'a? Je ne l'ai pas encore. Tu l'as, ma soeur, là, ou l'un de vous, Matthieu 24, tu l'as, Ben? Très bien, lisez-le. Car il s'élèvera de faux chrétiens, de faux Christ, de faux Christ et de faux prophètes, de faux prophètes. Ils feront de grands signes et des prodiges au point de séduire les élus, si c'était possible. Là, c'est ça. Alors, qu'est-ce qui va s'élever? Il s'élèvera de faux Christ de fausses personnes qui diront « Je suis de Christ », de faux prophètes qui diront « Je suis ceci, je suis cela ». Ils séduiront presque les élus si c'était possible. Il n'y a qu'une seule façon d'être sauvé, c'est quand vous avez été choisi avant la fondation du monde. C'est ce que les élus, par la préconnaissance, votre nom a été mis sur le livre à ce moment-là de grands signes. Maintenant, observez ces deux églises. Aussi, je pouvais, s'il y avait un moyen pour que je fasse que les gens le voient, ça brûle dans mon âme. Et ces églises sont tout aussi pures et sanctifiées que celles-ci. Elles sont toutes vierges, tout aussi sanctifiées. La seule différence était l'huile dans la lampe. Le Saint-Esprit. Et le Saint-Esprit, s'il est à l'intérieur, il produit exactement le même genre de feu qu'à la Pentecôte. Mais ils n'ont pas de feu, pas d'huile dans leur lampe. Ils ont des traditions d'Église, l'Église aussi traditionnelle qu'elle peut l'être, de belles cérémonies, rien qu'on s'y lance, des credos qui ébranleraient votre conscience et des chants comme ceux des anges. Ils sont vous mettre le doigt sur leur vie, vous ne priez pas, mais c'est quand même faux. C'est une partie de cela, mais pas tout. C'est la sorte qui manque l'enlèvement, vous voyez. Elles sont juste, maintenant regardez, voici que Moab venait. Je vais le prendre ici pour que vous puissiez le voir. Voici Moab, une grande organisation. Je vais mettre ici avec l'organisation. Voici Israël sans l'organisation. Voici Moab qui érige 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 hôtels. Israël avait 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 hôtels. Très bien. Moab ici a offert 1, 2, 3, 4, 5, 7 taureaux. Israël 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 taureaux. Très bien. Moab a dit, il viendra un temps où il y aura un homme, Christ, qui viendra sur la terre. Il sera l'agneau de Dieu qui enlèvera le péché du monde. Nous en mettrons 7. Quoi? Agneau sur 7 hôtels? Israël dit, c'est exactement vrai, 7 agneaux sur l'hôtel. Vous voyez, maintenant, au tout début, Caïn bâtit un autel, fit un sacrifice, se prosterna, adora, fit tout ce qu'Abel faisait. Sans, recevez-le, sans la révélation de Dieu. Alors que toute l'Église est bâtie sur cette révélation. Jésus l'a dit, sur cette pierre, je bâtirai mon Église. La vérité spirituelle révélée de la divinité suprême de Jésus-Christ. Sur cette pierre, je bâtirai mon Église. Or, si Dieu m'a déclaré que pour vos traditions, vos rituels, en tant que méthodiste, baptiste, pentecôtiste, et ainsi de suite, s'il n'attend que cela de vous, comme prêcher la seconde venue et toutes ces autres choses qui sont absolument scripturaires, comme le baptiste, le presbytérien ou autre le fait, alors Dieu se doit de prendre les deux, car c'est tout ce qu'il exige. Mais vous voyez, sans la révélation, voilà la Vierge endormie. Voici la Vierge sage. C'était une organisation, une grande nation. L'autre soir, nous avons lu où il est écrit, « Ces gens ne seront pas une organisation, ils erront ça et là dans le pays, demeurant dans des tentes, pauvres, humbles. » Il est dit, « N'essaie pas de les maudire, parce que je suis avec eux. » Maintenant, regardez bien. Ces gens croient au même rituel auquel ils croyaient. Ils adoraient le même Dieu, voyez? Mais ils n'avaient pas les signes et les miracles qui les accompagnaient. Israël avait un serpent d'airain, un rocher frappé, la joie du roi, la guérison divine, des prophètes, tout sans rien qui ne manque. Et eux ne l'avaient pas. Ils avaient des rituels sans la bénédiction, l'huile. C'est la même chose pour la Vierge endormie et la Vierge sage. L'une comme l'autre étaient des personnes sanctifiées, mais celle-ci avait de l'huile et celle-là n'avait pas d'huile. Alors, elles ont dit, « Nous sommes aussi bonnes que vous. Aucun d'entre nous n'est bon en ce qui nous concerne. Vous n'êtes qu'une bande d'exaltés. » Eh bien, c'est d'accord, oh oui, très bien. Ah, aucun de nous n'est bon. Nous avons tous péché et étions privés de la gloire de Dieu. Mais le seul moyen pour vous de le savoir, ce n'est pas en adhérant à une église, en essayant de mener une bonne vie, mais en recevant Christ. Ce n'est pas ce que je vis, c'est ce qu'il était, lui. Ce n'est pas ce que je suis, c'est ce qu'il est, lui. Il est devenu moi pour que je puisse, par sa grâce, devenir lui, le Fils de Dieu. Vous voyez? Maintenant, une vierge endormie, une vierge sage avec de l'huile dans sa lampe. Et soudainement, un bruit s'est fait entendre. Voici l'époux sortait à sa rencontre. Elles se sont réveillées. Mais quand elles l'ont fait, celles-ci ont pu entrer parce qu'elles avaient de l'huile dans leur lampe. C'était ça la différence. Celles-ci ne pouvaient pas entrer car il n'y avait pas d'huile dans la lampe. Elles sont retournées pour aller en prière afin de recevoir le Saint-Esprit, mais pendant qu'elles étaient parties, tout était terminé. La dénomination dit, eh bien, peut-être que nous nous sommes trompés. On ferait peut-être mieux d'y retourner. On pourrait chercher le baptême du Saint-Esprit. C'est ce qu'elles essaient de faire maintenant. Avez-vous remarqué ça, les presbytériens? Retiens l'enregistreur un instant. Je ne veux pas nommer ce nom. L'époux arriva. Eh bien, combien sa venue est proche alors, quand ils sont en train d'essayer d'en acheter? Très bien, repars ton enregistreur, Jean. Maintenant, vous comprenez? Pendant qu'elles allaient en acheter, ils essaient d'en acheter maintenant. Toutes les églises essaient d'avoir un réveil, des réunions de réveil. Ils cherchent à revenir en arrière. Or, même le Dr Billy Graham a écrit dans « Le héros de la foi », vous l'avez lu, vu de Chicago, il a déclaré « Nous ne pouvons pas ignorer le mouvement pentecôtiste, voyez, nous ne pouvons pas ignorer ce mouvement parce qu'ils ont eu plus de convertis en un an que toutes les autres églises réunies. C'est exactement ce feu qui brûle, qui secoue, qui collecte, qui jette le filet et le ramène. Et quand vous avez jeté un filet, Jésus a dit, le royaume de Dieu est semblable à un homme qui a jeté un filet dans la mer. Et quand il l'a ramené, il contenait des tortues marines, des serpents, des grenouilles, des serpents et tout le reste. Mais il contenait aussi quelques poissons. C'est ce que fait le message pentecôtiste. Il parcourt la terre en le jetant, puis en le ramenant. On y trouve des tortues, des écrevisses, des crabes, des têtards, des salamandres aquatiques, des grèbes et tout le reste là-dedans. Mais ce qu'il y a, il y a aussi quelques poissons là-dedans. C'est ceux-là qui appartiennent au maître. Très bien, quelques-uns des frères qui sont des croyants légalistes à l'écoute, qui aimeraient brûler cette bande. Quand sont-ils devenus des poissons? Au moment où le filet est tombé sur eux, c'était des poissons au commencement. C'est vrai. Élus depuis la fondation du monde. Ils n'ont simplement jamais été mis au service du maître. C'est votre grenouille. Vous prenez une vieille grenouille et vous la jetez sur le rivage. Elle ne fait que whop, whop, retourne tout droit dans l'eau. Et la vieille écrevisse, là, elle dit, ah, cette bande d'exaltés, elle s'en retourne. Ah, oh non, elle retourne dans l'abus aussi vite qu'elle le peut. C'est vrai. Le vieux serpent sifflait un petit peu en chemin. Je crois que les jours des miracles sont passés, selon ce que m'a dit dans le docteur un tel, disant, ah, vous ne pouvez pas me tromper. Et là, voilà ce qui s'en va directement là-bas. Encore une fois, vous voyez, un serpent pour commencer. Une grenouille pour commencer. Paul a dit dans la Bible à propos de ceci, il a dit, ils sont sortis du milieu de nous parce qu'ils n'étaient pas des nôtres. Voyez? Très bien. La Vierge folle. La Vierge sage, avec de l'huile dans sa lampe. Elle s'est préparée. Bon, pendant qu'elle était partie chercher de l'huile, c'est ce qu'ils cherchent à faire maintenant même. Ces grandes églises évangéliques, elles essaient de trouver ces grandes choses, vous savez, et de faire retourner à la Bible, retourner. Il nous faut la bénédiction de la Pentecôte. Eh bien, nous pouvons imaginer quel genre de réunion ils vont avoir. Vous voyez, ils ne vont pas arriver là, puis gâcher toute leur manucure et tout ça. Oh non! Elles ne vont pas abandonner leur sororité et leur association et ce genre de choses-là. Elles s'accrochent au monde, comme Ésaü d'une main et de l'autre. Elles essaient de s'accrocher à Dieu. Vous ne le pouvez pas. Vous ne pouvez pas être un chrétien qui lousse, qui, vous savez, regarder Dieu et le monde en même temps. Vous devez vous centrer sur le calvaire, rester là, juste là avec cela. Bon, mais les voilà qui partent et ils cherchent à y revenir. Et souvenez-vous à quel point nous sommes proches. À l'instant même où ils sont allés en acheter, c'est à ce moment-là que l'époux arrive. Oh, frère Stricker, nous sommes tout prêts. Nous sommes presque à la maison. Oh, un de ces matins, quand la trompette du Seigneur retentira, qu'il n'y aura plus de temps, et que poindra le matin éternel, resplendissant de beauté, quand ses élus se rassembleront dans leur maison au-delà du ciel. Quel moment ce sera? Oui, la Vierge endormie. Est-ce maintenant cette Vierge endormie? Vous voulez savoir ce qu'il adviendra d'elle? Ce sera cela. Il y a une chose que j'aimerais expliquer. Qu'arrivera-t-il à ces églises? Qu'arrivera-t-il à ces gens qui font partie une partie du chemin avec Christ et qui ne sont pas venus ou qui n'ont pas fait tout le chemin avec Christ? Maintenant, dans Romains, je crois, 2, 22, la Bible a dit, Paul, « Si l'Esprit de Dieu n'est pas en vous, vous n'êtes pas de Dieu. » Vous appartenez à une organisation, mais pas à Dieu. Si l'Esprit de Dieu n'est pas en vous, vous n'êtes pas de Dieu. Voyez? Vous devez avoir l'Esprit de Dieu pour être de Dieu, certainement. Très bien, monsieur. La grande tribulation. Eh bien, Maintenant, si vous, ils devront passer par... Maintenant, vous vous rappelez, il a dit, maintenant, je vais prendre le reste de cela. Ils ont jeté dans les ténèbres dehors, il y aura des pleurs, des grincements. Très bien, c'est la grande tribulation, n'est-ce pas? La grande tribulation. Eh bien, après cette tribulation, ces gens, maintenant, je vais le prendre de nouveau ici. C'est le reste. Maintenant, regardez. Voici une pièce de tissu. Très bien. La dame l'étend comme ça. Maintenant, elle va se confectionner quelque chose, vous savez, un genre de vêtement. Bon, c'est tout le tissu dont elle dispose. Là, d'un bout à l'autre, c'est toujours le même genre de tissu. N'est-ce pas? Les deux étaient vierges, vous voyez? Très bien. Elle avait la foi en Christ, une forme de piété. Elle allait à l'église, faisait de bonnes choses, charitable. On ne fait rien dire contre ses œuvres et tout. Dans chacun des âges, il répète, « Je connais tes œuvres, mais il te manque encore quelque chose, voyez? » Bon, quand la femme, elle étudie la façon dont elle va disposer le patron, puis elle décide comment elle va découper ce patron et ce qui doit être découpé, pas vrai? Eh bien, elle obtient ce qu'elle pense être la partie la plus satisfaisante et la meilleure du patron, pas vrai? Parce que c'est tout le même tissu. Elle le dispose comme ceci ou comme cela, l'étend, puis elle prend ses ciseaux et elle le découpe. Maintenant, ce qu'il reste, on appelle ça le reste. Très bien. Eh bien, quel est ce patron? Comment a-t-il été tracé? Par l'endroit où la dame a choisi de découper. Dieu, avant la fondation du monde, qui par sa préscience connaissait la fin dès le commencement, a choisi où découper. Il connaissait la différence entre Ésaü et Jacob. Il connaissait la différence entre un pécheur et un saint. Il connaissait la différence, il connaissait le motif de chaque cœur. Donc, il nous a élus avant la fondation du monde et a mis son nom dans le livre de vie de l'agneau. Et aussi, l'agneau qui devait être immolé, il a mis nos noms avant qu'il ne soit immolé. Et la Bible a dit que Christ était l'agneau immolé avant la fondation du monde. Et nos noms ont été mis dans le livre quand il a été élu au début pour être l'agneau qu'il serait immolé. Nous avons été élus pour être ceux pour lesquels il a été immolé. Vous voyez ça? Maintenant, ce sont tous des vierges. Bon, voici le petit reste qui n'a pas été jeté. Oh non, elle le garde. Elle le met de côté pour en faire un usage différent, vous voyez? Mais ce ne sera pas utilisé là, ça. C'est l'Église qui a été découpée. Eh bien, ils devront passer en jugement. Bon, qu'ils ne passent pas par la tribulation, ça, c'est le reste. Là, vous saisissez, voilà l'Église qui monte à la maison. Elle rentre à la maison. Ici, c'est le reste, les restants. Et ici, c'est les 144 000 sur le mont Sinaï, les Juifs. Il ne s'agit pas de trois épouses différentes. Ah, c'est l'épouse, le reste et les 144 000. Exactement. Il ne mangeait rien d'autre que de la nourriture du Saint-Esprit là-bas. Je suppose donc qu'il allait bien. Il n'y avait rien qui clochait avec Jean. Vous voyez, les voici. Or, à la fin des temps, combien savent que la Bible dit que les saints jugeront la terre? Paul l'a dit. Prenons maintenant le livre de Daniel et cherchons le trône blanc. Nous pourrions aller le chercher dans l'Apocalypse, mais j'aime le prendre dans Daniel, c'est la même chose, Daniel 7. Et nous allons voir le grand jugement du trône blanc, ici. Commençons au verset 8 du chapitre 7 de Daniel. Et je considérais les cornes. Et voici une autre petite corne sortie du milieu d'elle. Et trois des premières cornes furent arrachées devant cette corne. Bon, nous savons que nous sommes à Rome, là, maintenant. Et voici, elle avait des yeux d'homme. Souvenez-vous, cette corne n'avait pas reçu de couronne. C'était une ruse. Les autres cornes se sont transformées en bêtes. C'était une ruse, c'était un homme, un pape, au lieu d'un païen, vous voyez. Et une bouche qui parlait avec arrogance. Maintenant, regardez au verset 9. Je regardais pendant que l'on plaçait des trônes. Ce sont tous les royaumes des nations qui sont passés. C'est le prophète qui parle. Maintenant, souvenez-vous, chacun de ces choses qu'il a dites est arrivé juste à cette dernière chose. Nous savons par l'histoire que nous sommes en train de le revoir. Donc, était rejeté. Et l'ancien des jours s'assit. Son vêtement était blanc comme la neige. Vous savez qui c'était l'autre soir dans cette vision? Jésus. Et les cheveux de sa tête étaient comme de la laine pure. Son trône était comme des flammes de feu et les roues comme un feu ardent. Et un fleuve de feu coulait et sortait de devant lui. 1000 milliers le servaient. Voilà l'Église qui revient avec lui, voyez. Et 10 000 millions se tenaient en sa présence. C'est l'épouse qui arrive avec le reste du monde. Les juges s'assirent et les livres furent ouverts. Et je regardai alors à cause des paroles arrogantes que prononçait la corne, et j'entendis que je regardais l'animal fut tué, et son corps fut anéanti, livré au feu pour être brûlé. Les autres morts furent dépouillés de leur puissance, furent dépouillés de leur puissance, mais une prolongation de vie leur fut accordée jusqu'à un certain temps. Bon, les juges s'assirent, et les livres furent ouverts. C'est quand l'épouse revient et qu'elle s'assoit et l'Église élue, l'Église qui a été enlevée reviendra après ces 3 ans et demi et après que le temps, et dans l'Apocalypse, cela est mentionné, il est dit que les autres morts ne reviennent pas à la vie jusqu'à ce que les 1000 ans soient accomplis. Vous, combien l'ont lu à plusieurs reprises, ne reviennent pas à la vie jusqu'à ce que les 1000 ans soient accomplis. Jésus revient avec l'épouse. Maintenant, rappelez-vous, comme je l'ai dit, tout va par trois, sa venue va par trois. La première fois, il est venu pour racheter son épouse. La seconde fois, il vient pour enlever son épouse. C'est comme une histoire d'amour. Il vient en douce et l'enlève pendant la nuit, retirant du monde, à sa rencontre dans les airs. La venue secrète du Seigneur, voyez. La deuxième fois qu'il vient, c'est pour prendre son épouse avec lui. La première fois, c'est pour la racheter. La deuxième fois, c'est pour la prendre avec lui. Et la troisième fois, il est avec elle, le roi et la reine. Et puis ici, il revient pour juger les nations. Paul a dit, je vous défends d'engager des poursuites lorsque vous avez un différend les uns avec les autres. Ne pouvez pas prendre soin des petites choses. Ne savez-vous pas que les saints jugeront le monde? Voici le jugement qui a été remis entre les mains de Christ et à ceux qui sont de son côté. Eux, ce sont les avocats dans leur loge. Et là, il est assis sur le trône. Voici l'épouse, c'est l'avocate. Et voilà ceux qui s'avancent. Les livres ont été ouverts et un autre livre qui est le livre de vie. Or, le premier livre, c'était le livre du pécheur, celui qui est jeté dehors. Très bien, il est condamné dès le départ. Voici les boucs. Il n'a aucune chance, vous voyez. C'est un pécheur dès le départ. Très bien, maintenant, il est rejeté. Mais quand, aux brebis, elles ont passé en jugement, il fallait qu'elles soient jugées. Et ce sont les saints qui devaient la juger. Dieu n'est pas injuste. S'il y a des païens là-bas dans le pays, et nous nous construisons des sanctuaires en or d'une valeur de 8 ou 10 millions de dollars ici en Amérique, au lieu de leur apporter le message là-bas, Dieu nous en tiendra pour responsables, mais il va les épargner. C'est sûr, Dieu n'est pas injuste. Vous ici, si vous n'aviez jamais vu cela auparavant, vous n'en serez peut-être pas tenu responsable, mais vous l'êtes maintenant, voyez-vous? Vous êtes tous responsables, et nous sommes responsables de prendre le message. Vous êtes responsables que vous l'écoutiez ou non. Maintenant, les païens se lèveront, ces gens qui sont dehors en train d'adorer un sanctuaire. Ils ne connaissent pas mieux, ils ne savent rien de tout concernant cela. Dieu n'est pas injuste, il ne les condamnerait pas sans avoir donné une chance, et une place leur sera réservée. Et ainsi, dans l'Église, tout au long des âges jusqu'à celui-ci, depuis Éphèse jusqu'ici, le message, le vrai message de Christ comme il était au commencement, le baptême du Saint-Esprit, la puissance, la résurrection, le parler en langue, l'interprétation des langues, les dons de guérison, le baptême au nom du Seigneur Jésus, toutes ces choses qu'il a enseignées, chacune des personnes constituant cette épouse agira en tant qu'avocat. Voilà qu'on présente la cause de quelqu'un. Vous avez eu une réunion chez un tel, est-ce que vous lui avez dit? Maintenant, l'avocat, oui, je lui ai dit. C'est écrit dans le livre, vous ne pouvez pas le nier, même nos pensées y sont notées, voyez. On ne peut pas le nier. Oui, je lui ai dit qu'il devait être baptisé. À Jeffersonville, là-bas, dans le tabernacle, là, oui, monsieur, oui, c'est ici dans le livre. Vous leur avez dit qu'ils devaient le faire. Ils ont même sondé les Écritures. Ils ont vu que c'était juste, mais ils ne l'ont pas fait. Éloignez-vous de moi, ouvrier d'iniquité. Je ne vous ai jamais connu, voyez. C'est là qu'il sépare les boucs des brebis, vous voyez. Il jette les uns du côté droit et les autres du côté gauche. Voilà qu'il nous ramène à nos trois catégories de nouveau. Mais cette catégorie-ci ne sera jamais avec cette catégorie-là. C'est l'épouse. Et remarquez, l'épouse est avec lui dans le temple. Les autres travaillent et apportent leur gloire dans le royaume, mais l'épouse est continuellement avec l'époux. Les autres n'y auront jamais accès. Comme ceux-ci en bas, ils serviront. Ils ne seront pas jetés dehors, car il les a séparés comme on sépare les brebis des boucs. Mais le bouc n'en avait pas la compréhension. Il ne s'en souciait pas. C'était un bouc qui était satisfait d'être un bouc, et donc il est tout simplement mort comme un bouc, et ça en était fini de lui. C'est tout. Mais la brebis, si Dieu retient ça, que j'étais là avec les païens qui n'en ont jamais entendu parler, alors si vous prêchez cet évangile aux gens, et je dois comparaître, ne vous rappelez-vous pas que dans le grand ravissement qu'il m'a donné il n'y a pas si longtemps que je devrais comparaître avec ces gens et que je serai responsable d'eux, et j'ai vu des millions qui se tenaient là, j'ai dit, sont-ils tous des Branham? Non, il a dit, ce sont des convertis. J'ai dit, je veux voir Jésus. Il a dit, pas encore. Il reste encore un peu de temps avant qu'il ne vienne. Mais il viendra premièrement à toi, et tu seras jugé par la parole que tu auras prêchée, et eux, ils se reposent sur cela. J'ai dit, faudra-t-il que tous le fassent? Paul devra-t-il comparaître? Il a dit, oui, Paul comparaîtra aussi avec son groupe auquel il a prêché. J'ai dit, j'ai prêché le même message que lui. Et 5 millions de personnes ont levé la main en disant, nous nous reposons là-dessus. Vous y voilà, vous voyez, juste là, oui. Il a dit, alors, nous retournerons ensemble sur la terre dans un corps semblable, capable de manger et de boire pour vivre ensemble tout au long des âges, sans fin. C'est la venue du Seigneur. Très bien. Bon, juste un instant. Maintenant, j'ai presque terminé, là, parce que c'est presque le temps de notre frère ici pour le service de baptême, ou peu importe pourquoi il veut l'utiliser. Très bien. Maintenant, pendant cet âge de l'Église, oh, voilà quelque chose de tellement beau, j'ai tellement ça. Pendant ces âges de l'Église, il y a deux esprits qui œuvrent presque de la même façon jusqu'ici. L'un est la dénomination, l'autre est le Saint-Esprit. Et Jésus a dit, il serait tellement proche qu'il séduira même les élus si c'était possible. Les deux esprits font une marque sur leurs fidèles en vue du jugement à venir. Satan a promis qu'il en aurait plus que Christ, et c'est le cas. Eh bien, soyez très, très attentifs maintenant, alors que nous abordons ceci. Plus que ça, ce serait le marquage des gens. Beaucoup sont comme Ève. Ève s'est arrêtée juste assez longtemps pour être séduite. Si elle ne s'était pas arrêtée, elle n'aurait jamais pu être séduite. Mais Ève s'est arrêtée. Et quand elle s'est arrêtée, c'est là qu'elle a été séduite, au lieu de courir vers le but. Est-ce que vous me suivez? Suivez de près maintenant. Écoutez, la raison pour laquelle Ève a été séduite, disons-le tous ensemble parce que je suis certain que vous l'avez saisi. La raison pour laquelle Ève a été séduite, c'est qu'elle n'a jamais gardé la parole entière de Dieu. Satan la lui avait citée, mais il ne lui a jamais dit toute la vérité. Sa dénomination non plus, voyez. Mais elle est restée assez longtemps pour recevoir une partie de la parole, mais elle n'a pas accepté toute la parole. Et c'est ce qui se passe aujourd'hui. La Vierge endormie est restée assez longtemps pour recevoir une partie de la parole, mais pas toute la parole. L'Église séduite est restée assez longtemps pour recevoir une partie de la parole, mais pas toute la parole. Pourtant, il était sincère et honnête à ce sujet. Ève a été séduite. La Bible a dit qu'elle a été séduite. Adam n'a pas été séduit. Adam savait exactement qu'il agissait mal, Mais sa femme faisait les choses qu'elle faisait, la persuader de prendre part à l'interdit. Eh bien, c'était un homme, vous voyez, c'était donc à lui. Vous comprenez, il savait qu'il agissait mal, mais Ève pensait qu'elle agissait bien. Oh, ne voyez-vous pas, c'est pourquoi Paul a dit qu'une femme ne devrait jamais prêcher l'Évangile. Ah oui, c'est elle qui a été séduite. Je ne permets pas à une femme d'enseigner ni de prendre aucune autorité, mais de demeurer en silence, voyez, car Adam a été formé le premier, et Ève ensuite. Et Adam n'a pas été séduit, mais la femme a été séduite. Elle s'est rendue coupable de transgression. Il est dit néanmoins, eh bien, elle n'est pas perdue. Elle sera sauvée en devenant mère si elle a un mari. Et ainsi de suite, si elle persévère avec modestie dans la foi, dans la charité, dans la sainteté, elle sera sauvée. Mais ne permettez jamais à l'une d'elles d'enseigner ni de prendre aucune autorité. Vous voyez, Paul a dit, ne le faites pas. Il a dit, maintenant, je crois que j'ai la pensée du Seigneur. Il a dit, ils ont dit, eh bien, les prophètes là-bas ont prophétisé et ils nous ont dit que nous devrions prêcher. Il a dit quoi? Est-ce de vous que la parole de Dieu est sortie? Est-ce à vous seul qu'elle est venue? Si quelqu'un croit être spirituel ou prophète, qu'il reconnaisse que ce que je vous écris est un commandement du Seigneur. Vous voyez, c'est vrai, il savait de quoi il parlait. Mais il a dit, s'il veut l'ignorer, qu'il ignore, c'est tout. Et s'il ne veut pas écouter cela, eh bien, laissez-le continuer. Il se dirige tout droit dans le fossé, vous voyez. Continuez tout simplement votre chemin. Mais voilà, ces deux esprits. Là, la raison, c'est comme d'avoir des femmes dans les forces de police, là, dans les rues. C'est une honte pour le drapeau américain de mettre ses mères, là, dans la rue. Et des dizaines de milliers d'hommes sans emploi. Eh bien, c'est la nation de la femme. C'est la place de la femme. Une femme va prendre le pouvoir. C'est le culte de la femme. C'est cet esprit dogmatique catholique adorant une femme comme un dieu. C'est juste, cela s'installe parfaitement. Ne voyez-vous pas le piège? Dieu n'aurait pas pu donner rien de plus doux à un homme qu'une femme, une vraie femme. Mais quand elle va au-delà de ça, elle est sortie. C'est tout à fait vrai. Dieu n'a jamais voulu que les femmes travaillent dans ces endroits et qu'elles fassent ce genre de choses. Ces femmes, elles doivent avoir des enfants, élever leurs enfants. Elles sont toutes petites prédicatrices, chacune d'entre elles, mais elles ont leur propre ministère à la maison avec leurs enfants, élevant leurs enfants. Très bien. Maintenant, deux esprits presque pareils, tout comme Ève, presque de... Eh bien, Satan, il a dit, Dieu a dit, c'est vrai, Dieu a dit, oui, Dieu a dit, mais oh, il ne nous condamnerait sûrement pas si nous étions baptisés au nom du Père, Fils, Saint-Esprit, ne serait-ce pas aussi bien? Espèce d'hypocrite visqueux. Oui, monsieur. Dieu n'a jamais dit ça. Pareille chose n'existe pas, de toute façon, c'est mort. Il n'y a rien de tel. Dis-moi où le nom de Père, Fils, Saint-Esprit, un tel nom n'existe pas, donc c'est mort. D'où est-ce qu'il est sorti? De Sardes, l'Église morte. Ça n'existe pas. Tu as un nom qui dit que tu es vivant et tu dis que tu es une Église chrétienne, mais tu es mort. C'est vrai, il n'y a rien de tel que le nom de Père, Fils, Saint-Esprit. Oui, bien, ça ne serait pas aussi bon. Ça ne le sera pas. Paul a dit que ça ne sera pas. Il a dit, avez-vous reçu Saint-Esprit que vous avez cru? Nous ne savons pas que c'est lié. Il a dit alors, venez vous faire baptiser de nouveau au nom de Jésus-Christ. Il a dit, si un ange vient du ciel, enseigne autre chose, qu'il soit anathème. C'est la vérité. Je ne suis responsable que de l'avoir dit. Vous comprenez? Il ne s'agit pas tellement de vous. Ce sont ces bandes sur lesquelles je réprimande. Vous voyez, parce que je sais où elles s'en vont, partout. Et donc, c'est de ça qu'il s'agit. Très bien. Ce n'est pas... Ève a été séduite. Elle a vu une partie de la parole. Boïb a été séduit. La Vierge endormie a été séduite. L'Église est séduite. Les dénominations sont séduites. Vous voyez? Restez avec la parole. C'est le seul moyen. Tenez-vous-y. Ne vous en écartez pas. Tenez-vous-y. Allez avec ce que Dieu a dit de faire. Peu importe ce que n'importe qui d'autre en dit. Gardez les règles de Dieu. Maintenant, la Vierge endormie, elle a perdu sa place. Nous savons. Elle comparaît en jugement. Et si elle a déjà entendu la vérité, elle est condamnée. C'est vrai. Vous ne trouverez Jésus nulle part ailleurs qu'à l'endroit où vous l'avez laissé. Judas pourrait venir, souvenez-vous, les vierges endormies, vous dites, pourraient être inspirées par le diable, absolument, et de vivre une vie pure, oui, monsieur, Judas l'a fait, sauver, sanctifier, apprêcher la guérison divine, chasser les démons, eh bien, il était bien droit, presque la même chose que ce que les autres étaient, mais quand est venu le moment de la Pentecôte, c'est là qu'il m'a montré ses couleurs. Il n'a pas reçu le Saint-Esprit, il a tourné ses talons, il a renié le Seigneur Jésus. C'est exactement ce que les églises ont fait. Quand est venu le moment de la bénédiction de la Pentecôte, ils s'en sont éloignés. Oh, ils ne voulaient pas auditoire. Oh, donc, ce soir, la grande pierre de fête. Mais un instant, je pense que nous avons un peu plus de temps. J'aimerais passer à autre chose. Je veux vous montrer la marque de la bête. La marque de la bête. Prenons Apocalypse 13, juste une minute. Apocalypse 13, 15, et lisez jusque ce qu'il va faire. Apocalypse 13, 15. Apocalypse 13, 15. Et il lui fut donné d'animer l'image de la bête. Maintenant, c'est-à-dire aux églises protestantes. Les églises protestantes. Il y avait de l'autorité parce qu'ils ont fait une image. Les églises protestantes, par l'intermédiaire du Conseil des églises, qui prépare un endroit où toute la communauté protestante devra être unie. Combien connaissent ou ont lu à propos du grand bâtiment de l'unité qu'ils ont pour les églises du monde entier? Certainement, vous voyez, là-haut, maintenant, tout comme les Nations unies, et ils sont tous là-bas, chacun d'entre eux, même les assemblées de Dieu. Ils y sont, vous voyez. Des chiens qui se dévorent entre eux. Comme un cochon retourne à son bourbier et un chien à son vomi, c'est la même chose, absolument, reniant presque leur position évangélique. Et voilà, ils veulent être grands, ils veulent agir comme le reste du monde, comme Israël l'a fait quand ils ont vu les rois et qu'ils ont dit « Donne-nous un roi ». Voyez? Et il fit une image à la bête, et afin que l'image de la bête parla et qu'elle fit que tous ceux qui n'adoreraient pas l'image de la bête, l'image de la bête, la dénomination protestante, pas la catholique. C'est l'Amérique dont il parle ici, voyez-vous, parce que ce chapitre 13 est sur l'Américain. La bête qui sort, vous voyez, toutes les autres bêtes sortent de l'eau, ce qui signifie la masse et les foules de gens. Mais la bête ici, elle est montée comme un agneau hors de la terre où il n'y avait pas de gens. Elle avait deux cornes, puis elle a parlé comme un dragon. Ils ont fait une image de la bête qui est en Europe. Ils ont fait une image de celle-ci unissant les églises ensemble et faisant cette communauté protestante. Ensuite, ils forceraient toutes les autres églises de sorte qu'ils ne pourraient même pas acheter ou vendre ou quoi que ce soit d'autre sans elles, qu'elles aient cette image de la bête. Maintenant, regardez ce qui se passe ici. Et elle fit que tous, les grands, riches, pauvres, libres, esclaves, reçussent une marque sur leur main droite ou sur leur front, et que personne ne puisse acheter ni vendre jusqu'à ce qu'il, sans avoir la marque, le nom de la bête ou le nombre de son nom. C'est ici la sagesse que celui qui a de l'intelligence calcule le nombre de la bête, car c'est un nombre d'hommes, et un nombre est 666. Nous savons de qui il s'agit. C'est la hiérarchie de Rome, le pape. J'ai été là-bas et je l'ai vu moi-même, je devrais savoir, juste au-dessus, son trône, c'était là, comme ils l'ont élu, le premier Boniface III au début de l'âge catholique ici, et tout là-haut, c'est Vicarius Filii, qui signifie un vicaire du Fils de Dieu, divinité, voyez, le vicaire du Fils de Dieu, en d'autres termes, tout comme le Fils de Dieu assis ici, sur la terre, voyez, tous les pouvoirs pour changer la Bible, changer tout ce qu'il veut, par conséquent, dites, je vous salue Marie, que dit le pape? Nous dirons, je vous salue Marie. C'est réglé. Ah oui. Eh bien, on va faire telle et telle chose. Que dit le pape? C'est ça. Un vicaire à la place du Fils de Dieu. Tout récemment, ils ont eu ce dogme que Marie n'a pas été ensevelie. Et ils ont sa tombe et tout ce qui est indiqué là où elle était ensevelie. Ils se sont dit, elle est ressuscitée. Le pape a dit, c'est ça. Et c'est tout simplement ça. C'est infaillible. Vous voyez, le pape l'a dit, vicaire du Fils de Dieu. Il a dit, maintenant, quiconque veut savoir qui est la bête, d'où vient cette puissance, il a dit, calculez le nombre, là, et que celui qui a la sagesse. Et là, c'est un don du Saint-Esprit. C'est la sagesse. Que celui qui a la sagesse compte le nombre de l'homme, car c'est compte le nombre de la bête, car c'est un nombre d'hommes et son nombre est 666. Maintenant, vous prenez et plus ce nom, V-I-C-O, et juste selon les mots, vous tracez une ligne en bas ici, vous additionnez les chiffres romains et vous verrez si vous n'obteniez pas 666, c'est vrai. Et maintenant, faisons une image à cette bête. Et dans ce pays, ils ont fait une image, une confédération de dénominations ensemble, les Nicolaïtes se réunissant et formant une organisation, et ils uniront finalement cette confrérie, non pas en tant que catholiques, mais ils seront unis comme une confrérie pour essayer d'éradiquer le communisme. Et la Bible dit que Dieu a suscité le communisme pour se venger des nations pour ce qu'elles ont fait aux enfants de Dieu. C'est tout à fait vrai. Il a dit, ils ont donné leur pouvoir et tout à la bête pendant une heure pour venger le peuple, le sang du sang qu'ils avaient versé. Et quand cette bombe atomique ou quoi que ce soit frappera cette cité du Vatican et que la hiérarchie romaine ne sera plus, il est dit, et il en fut trouvé le sang de tout martyr qui ait jamais été tué dans le monde. Et la voilà. Et en voici l'image, une confédération d'église. Avant longtemps, on devra fermer ses portes là-bas, c'est exact, ou bien prendre une marque dénominationnelle. Et nous allons fermer les portes, c'est vrai, nous savons mieux que ça. Maintenant, je veux juste condenser ce qui suit avant que nous partions dans les prochaines minutes. Maintenant, le sceau de Dieu est le Saint-Esprit. Tout le monde le sait, n'est-ce pas? Très bien. Nous savons tous que le sceau de Dieu est le Saint-Esprit. Or, ça se trouve, vous prenez Apocalypse 9:1-4. Vous verrez qu'ils avaient tous le sceau sur leur front. Dans 1 Corinthiens 1:22, Paul a dit, par lequel vous avez été scellés par son Saint-Esprit pour le jour. Éphésiens 4:30 dit, n'attristez pas le Saint-Esprit. C'est cet ange qui vient en mettant le sceau sur leur front. Maintenant, cela ne veut pas dire que vous, qu'il vous prend et fait une marque, là. Votre front, c'est votre révélation. Voyez? Et votre main est ce que vous en faites. Voyez? C'est une marque spirituelle. Voyez? Il ne prend pas une grosse étampe et vous étampe comme ça, oh non. C'est comme ce qu'ils ont dit ici il y a quelques années quand le NRA est sorti, c'était ceci ou cela. Ne cherchez pas cela, c'est déjà fait. La Bible dit qu'il a commencé au loin là-bas, c'est presque terminé maintenant, voyez. C'est vrai, mais il a marqué ceux qui étaient scellés, voyez. Et comment était le premier qui a été scellé, comment était-il? Ils étaient remplis du Saint-Esprit, c'est vrai, et leurs œuvres étaient les œuvres de Christ. Ils imposaient les mains aux malades, ils étaient guéris, ils ont fait toutes sortes de signes, de miracles, de prodiges. Et sur leur front, ils étaient scellés par la révélation qu'il était le Fils de Dieu. Ils œuvraient avec lui la divinité de Christ. Voilà la marque. Vous dites, eh bien, maintenant, c'est la troisième personne ou la deuxième personne. Vous n'avez pas encore de sceau, donc laissez simplement ça de côté. Vous voyez, vous avez dévié, vous sortez des écrits. Là, en effet, il n'y a rien de tel dans la Bible. Nous croyons en la Sainte Trinité. Vous êtes loin. Vous n'êtes même plus dans les écrits maintenant. Vous voyez, parce que la Trinité, ça n'existe pas. Ça n'a jamais été mentionné dans la Bible. Trouvez le mot Trinité dans la Bible et venez. Dans le Fils, appelé la filiation. Maintenant, il est en vous, le baptême du Saint-Esprit, le même Dieu. Le Saint-Esprit était le Père de Jésus-Christ. Un peu de temps, et le monde ne me verra plus. Il a dit Jésus, je viens de Dieu, je retourne à Dieu, le Saint-Esprit à nouveau. Et je serai avec vous, même en vous, jusqu'à la fin de toutes choses. Tout au long, je serai en vous, comme cela, et les œuvres que je fais, vous les ferez aussi. Les choses que j'ai faites vont continuer, cela sera le signe du croyant tout au long. Allez, prêchez, baptisez-les au nom du Seigneur Jésus, ils seront remplis de mon esprit. Ce sont ces signes accompagnant ceux qui croient jusqu'à la fin du monde. Je serai avec vous, même jusqu'à la fin du monde. Il a été enlevé dans la gloire. C'est cela, et nous attendons à ce qu'il vienne un jour. Bon, c'est le sceau de Dieu, nous savons cela. Et souvenez-vous, il n'y a que 144 000 Juifs qui sont scellés. C'est le reste parmi les Juifs qui restaient. Mais ici, dans l'épouse des nations, il y avait des dizaines de milliers de milliers de ceux qui ont été scellés là parce que ce sont les martyrs et autres qui sont venus à travers les âges là-bas. Ils se lèveront au jour du jugement. Que pensez-vous qui se passerait quand ces pieds du jugement des reins se tiendront là ce jour-là et que ces martyrs se tiendront là devant ces Romains? Peut-être les Nicolaites qui les ont brûlés sur des bûchers, les ont jetés dans les fosses aux lions et des choses comme ça. Ils seront là comme leur avocat dans la salle du jury ici. Et le juge assis là sur le siège, leur avez-vous prêché l'Évangile? J'ai scellé ma vie là-bas dans la gueule d'un lion pour eux. Oh frère, vous parlez de retirez-vous de moi? L'enfer sera trop bon pour eux. C'est tout à fait vrai. Tenez ferme, je connais ceux qui s'appellent eux-mêmes Nicolaites. Ils se disent remplis de l'esprit, ils ne le sont pas. Voilà, voyez, nous y voilà. Oh, quelle heure arrive, quel moment redoutable. Dieu se vengera. Je me vengerai, dit le Seigneur, je rétribuerai. Et chaque mauvaise action aura une juste. Tout ce que vous avez fait ou pensé dans votre vie sera retenu contre vous là-bas, sur cette grande chose magnétique avec chaque mauvaise pensée qui a traversé votre esprit. Repentez-vous, les enfants. Il n'y a qu'un seul moyen d'y échapper. Entrez en Christ. Et quand vous entrez dans son beau côté, aux cinq blessures, les cinq précieuses blessures dans son corps, quand vous verrez ce segment là-bas et que vous cacherez dans cela, dites « Rocher des âges, je suis bon à rien, cache-moi, Rocher des âges. » Sentez le précieux Saint-Esprit, mourez simplement et embarquez dans le corps de Christ. C'est un monde nouveau autour de vous. Les péchés que vous aimiez autrefois sont derrière vous. Oh, ni les choses à venir, ni les choses présentes, ni la mort, ni rien d'autre ne vous séparera jamais de ça. Vous êtes scellés jusqu'au jour de votre rédemption par le Saint-Esprit. Vous avez la révélation de qui il est. Vous savez dans votre cœur que vous êtes passé de la mort à la vie. Faites donc attention aux œuvres de vos mains. Voyez, vous ne volez plus, vous ne faites plus mal. Vos mains sont lavées de tout sang et vous prenez position, prêchez l'Évangile, dites ce qui est juste et vivez une vie juste et vous faites ce qui est juste. Le Saint-Esprit avec vous montrant ses signes et ses prodiges chaque jour. Dieu vous faisant savoir comment tu es mon enfant béni, je suis avec toi, je suis avec toi. Peu importe où tu es, je suis avec toi. Je t'accompagnerai dans les heures sombres et partout. Oh, quel ancre! J'ai ancré mon âme dans un port de repos. Je ne naviguerai plus les mers. Oh, la tempête peut s'élever alentour, mais en Jésus, je suis à l'abri pour toujours. Et même quand la mort viendra chanter autour de vous un séjour et en volant comme une abeille autour de votre tête comme ça, vous pourrez dire, « Oh mort, où est ton aiguillon? » Comme l'a écrit la petite Sarah l'autre matin, ma petite fille assise là derrière, elle prenait des notes, la petite fille de Frère Collins, je crois, sur ce qu'elle allait dire. Donc, je lisais le journal, sa mère et moi, elle a dit, « Le livre des révolutions. » Amen. Elle a dit, vous savez, la petite histoire que j'ai rencontrée à la fin sur la mort, vous savez, vous l'avez entendue, n'ayant pas d'aiguillon, étiez-vous là quand cela a été dit? Vous voyez, autrefois, la mort avait un aiguillon, mais quand Satan n'était pas trop sûr si cet homme était le Fils de Dieu ou non, vous l'auriez vu ce tenant-là quand Satan est venu et à lui en disant, eh bien, si tu peux faire des miracles, si tu es un homme qui opère des miracles, tu es ce Fils de Dieu, je vais te dire, c'est écrit dans la Bible, tu vois, et si tu le laisses moi te voir opérer un miracle, maintenant tu as faim, tu n'as pas mangé depuis 40 jours. Pourquoi ne prends-tu pas cette pierre pour en faire du pain et t'asseoir et en manger? Laisse-moi te voir le faire. Je croyais que tu es le Fils de Dieu. Il a dit, l'homme ne vivra pas seulement de pain, mais de toute parole. Oh là là! Il savait qu'il n'avait pas rencontré Moïse, là, n'est-ce pas? Moïse a lancé les commandements, il les a brisés, mais il savait qu'il se heurtait à plus que Moïse. Ensuite, il l'a fait monter, il a dit, tu vois tous les royaumes du monde, il y a les États-Unis, il y a la Grande-Bretagne, il y a tous ceux qui seront là dans les années à venir. Il a dit, ils m'appartiendront tous, tu le sais? C'est lui qui les gouverne. Il a dit, ils sont à moi et je ne ferai avec eux. Je les envoie à la guerre. J'en fais tout ce que je veux. Ils m'appartiennent. Il a dit, je te les donnerai si tu m'adores. Il a dit, arrière de moi, Satan. Il savait qu'il allait en hériter à la fin de toute façon. Alors, il a dit, « Arrière de moi, Satan! » Finalement, quand ils l'ont fait descendre un jour, ils ont pris un morceau d'étoffe et l'ont mis autour de son visage comme ceci, j'imagine, une vieille écharpe sale, et l'ont enroulé autour de sa tête et assis là, saignant et blessé. Le matin, un vent froid soufflait, il l'avait déjà fouetté et du sang coulait sur ses épaules. Ils ont jeté quelque chose autour de lui comme cela et ce sang collait sur son dos et assis là, une couronne d'épines qui lui cachait le visage comme cela et du sang et des crachat des soldats partout sur son visage, assis là, n'était-ce pas un spectacle à faire voir? Oh Dieu! Vous dites, si j'avais été là, j'aurais fait quelque chose. Alors pourquoi ne faites-vous rien maintenant? Parce que si vous auriez fait la même chose que maintenant, il est assis là, assis, on se moquait et crachait maintenant, crachait sur lui et les disciples se tenaient là à l'écart. Oh là là! Comment est-ce possible cet homme qui pouvait rappeler un homme mort de sa tombe et regarder là, mais il ne connaissait pas les Écritures, c'est ce que c'est? Et là, du sang et du crachat sur son visage, ils lui ont mis un morceau d'étoffe autour des yeux et dit, tu sais, ils me disent qu'il avait du discernement spirituel. Vous savez, c'est un prophète, il pourrait le dire au peuple, il a discerné les péchés de la femme au puits, il a dit à Simon, son père s'appelait Jonas et tout ça, voyons voir ce qu'il peut faire maintenant. Ils ont dit, nous allons mettre au défi, c'était le diable qui travaillait dans ces gens-là. Ils lui ont mis un morceau d'étoffe sur les yeux comme ça, ils ont pris un bâton, ils l'ont frappé sur la tête, ils l'ont dit, si tu es prophète, dis-nous qui t'a frappé. Il n'a même jamais ouvert la bouche. Il est juste resté là. Satan dit, vous savez, ça ne peut pas être Dieu. C'est la même chose que la vieille dénomination dit aujourd'hui. Cette bande d'exaltés, ça ne peut pas être Dieu. Mais ils ne savent pas. Ça ne peut pas être Dieu qui fait ces choses. C'est de la télépathie mentale. Ce sont des 10 heures de bonne aventure. Ils n'ont pas compris, c'est tout. Ils ont commencé à gravir la colline. Ils ont mis cette robe sur lui, le seul vêtement qu'il ait jamais eu. Je pense que c'était un homme, Marie et Marthe. Il avait tissé une petite tunique, une tunique d'un seul morceau sans couture. Ils l'ont mise sur son dos. Il y avait ses petites taches sur son vêtement comme il gravissait la colline, traînant, cahotant cette vieille croix et son petit corps frêle qui avançait et eut le fouettait et tout le reste pour qu'il continue comme ça, cette vieille croix cahotant sur les pierres, qui frottait sur ses épaules, il titubait et continuait. Ses petites taches devinrent de plus en plus grandes au point qu'en un moment, il n'était plus qu'une seule grande tache. Le vieux Satan est venu, vous savez, sous la forme d'une abeille. Cette mort, vous savez, il a dit, ah, ça dure. Ce n'est qu'un homme, il faisait semblant. Il le pense encore. Il faisait juste semblant, alors je vais le piquer. S'il était Dieu, il ne pourrait pas mourir. Alors je vais le piquer et voir comment. Je vais lui donner une épreuve. Et quand il l'a mis sur la croix, il a inséré son dard en lui. Mais quand il l'a fait, il a perdu son dard. C'était plus qu'un homme. Il avait piqué Dieu cette fois. Et c'est pour cela qu'il a dit, ô mort, quand Paul, vous savez, une abeille, une fois qu'elle pique profondément, elle ne peut plus piquer. L'abeille est fichue alors. Elle peut bourdonner, elle peut faire du bruit, mais elle ne peut plus piquer parce qu'elle n'a plus de dard. Donc la mort n'a plus de dard. Paul, lorsqu'il construisait un endroit pour lui couper la tête, la mort bourdonnait autour de lui. Il a dit, ô mort, où est ton aiguillon? La tombe disait, je t'aurai, Paul, je vais t'enterrer. Je suis allé là, ils lui ont coupé la tête et ont jeté dans les égouts. La tombe a dit, je vais ronger ton corps, je vais te faire pourrir. Il a dit, oh, tombe, où est ta victoire, voyez? Mais grâce soit rendue à Dieu qui nous donne la victoire par notre Seigneur Jésus-Christ. La mort avait perdu son aiguillon pour lui. Il a dit, j'ai combattu le bon combat, j'ai achevé la course, j'ai gardé la foi. Désormais, la couronne de justice m'est réservée. Le Seigneur, le juste juge, me la donnera dans ce jour-là, et non seulement à moi, mais encore à tous ceux qui auront aimé son avènement. Amen. Tranchez maintenant, si vous voulez. Ah, c'est ça, c'est ça. C'est comme ça, frère. C'est le véritable esprit chrétien. Bon. Si vous avez l'opportunité, comment recevez-vous la marque de la bête? J'aimerais juste dire ceci parce que je pensais terminer en le disant. Comment recevez-vous la marque de la bête? Aimeriez-vous le savoir? Quels en sont les résultats? C'est quoi la marque de la bête? Nous savons ce qu'est le sceau de Dieu. C'est quoi le sceau de Dieu? Bon, allons dans Éphésiens 4:30 et là, vous verrez, puis lisez-le vous-même. Certains d'entre vous peuvent prendre l'Apocalypse 9:1-4 et autres 2 Corinthiens 1:22. Il y a beaucoup d'endroits, j'en ai marqué quelques-uns. Mais prenons Éphésiens 4:30 et ensuite, vous pourrez voir ce qu'est le sceau de Dieu et ses autres. Ou n'importe où, prenez juste le mot sceau dans votre concordance et regardez-le partout où vous le voulez. Très bien. Éphésiens 4:30. Écoutez ceci. Et n'attristez pas le Saint-Esprit de Dieu par lequel vous avez été scellés jusqu'au jour de votre rédemption. C'est quoi le sceau de Dieu? Le Saint-Esprit. Certainement, très bien. Maintenant, si quelqu'un n'a pas l'Esprit de Dieu, il ne m'appartient pas. Si vous avez le Saint-Esprit, vous faites partie de Dieu parce que vous êtes à lui. Il vous a scellé, il est en vous, œuvre en vous, et les œuvres qu'il fait, vous les faites aussi. Maintenant, est-ce que tout le monde le comprend? Il faut le Saint-Esprit pour être à Dieu. Le Saint-Esprit. Et si vous êtes du Saint-Esprit, vous faites les œuvres que Jésus a faites. Vous voyez, votre amour. Quand ils t'ont craché au visage et t'ont frappé comme ça, il n'y avait pas de racine d'amertume. Il les a regardés, il a dit, « Père, pardonne-leur, car ils ne savent pas ce qu'ils font. » Vous voyez, ils ne savaient pas. Pouvez-vous imaginer cela? Ses propres enfants réclamant son sang. Le Créateur des cieux et de la terre, suspendu sur une croix qu'il s'est faite lui-même, l'a fait pousser dans le sol, et ses propres enfants. Pensez à vos enfants, les pères, vos propres enfants, s'écriant de lui, à mort, libérez-nous, Barabbas, le voleur là-bas. Oh, j'étais ce Barabbas, j'étais celui qui méritait la mort, et il a pris ma place. Comme Barabbas a dû se sentir mal ce matin-là, quand le bataillon de ce centurion est descendu là et a ouvert la porte, et le vieux Barabbas qui disait, « Oh mon Dieu, encore un peu de temps et je serai parti. Je suis un meurtrier. Je suis un voleur. Ils vont tuer aujourd'hui, je le sais, c'est le jour de Pâques. Donc je suis sûr, je sais que je vais mourir aujourd'hui. Nerveux toute la nuit, faisant les 100 pas. La première chose, vous savez, voici le garde qui dit, « Oh, il est ici, il doit y aller. Je dois y aller, il est client. Sors, Barabbas. » Oui, je sais, j'y vais. Non, sors et fais ce que tu veux. Quoi? Va faire ce que tu veux. Sors, tu es libre. Je suis libre. Mais vous m'avez condamné à mort. C'est vrai, Dieu condamne tous les pécheurs à mort. Vous m'avez condamné à mort. Comment puis-je être libre? Viens ici, Barabbas. Regarde, gravissant la colline là-bas. Écoute cette croix qui cahote sur les pierres. Écoute les clous comme ils pénètrent dans ses mains. Regarde-le pleurer, un mélange de larmes salées et de sang sur son visage. Il a pris ta place, Barabbas. Il est mort pour toi. Vous voulez dire qu'il est mort pour que je sois libre? Oui. Bon, d'accord, je vais recommencer à commettre des meurtres. Oh, quel ingrat, tu mérites de mourir. Quand je contemple la croix merveilleuse où le prince de gloire mourut, toute ma gloire n'est que peine perdue. Oh là là! Ce n'est pas étonnant que le poète ait dit « Vivant, il m'aima, mourant, il me sauva, enseveli, emportant mes péchés, ressuscitant, il me justifia, un jour il revient, ô glorieux jour! » Comment pourrais-je le rejeter quand je vois ce qu'il a fait pour moi? Comment pourrais-je, je serais prêt à perdre tous mes amis sur la terre? Comment, quand je serais prêt à me faire virer par les organisations et jeter dehors alors que tout le reste, quand je regarde là-bas que j'étais condamné à mort et qu'il a pris ma place? Bien sûr, Seigneur, je compte tout le reste comme vaine perte. Oh, laisse-moi étreindre la croix, Seigneur. Alors que les rochers se fendaient et que les cieux s'assombrissaient, mon sauveur courba la tête et mourut. Le voile déchiré révéla le chemin vers les joies du ciel et le jour sans fin. Oh, laisse-moi rester près de toi, Jésus. Ne me repousse pas de ton côté à la vue de tes cinq blessures saignantes. Ô prince du ciel, comme il est mort pour moi, mort pour que je puisse, un condamné dans les chaînes du péché, dans la prison de l'enfer, condamné, coupable, s'en allant pour être détruit à jamais, et quelqu'un a pris ma place. Et puis, il labourant ici quand j'avais environ 18, 20 ans, un jour, le Saint-Esprit a dit, « Eh bien, qui suis-je? D'où est-ce que je viens? Où est-ce que je vais? » Il a dit, « Il a pris ta place. Tu t'en allais là. Il a pris ta place. Le voilà. » J'ai dit, « Oh, agneau de Dieu, je viens. Je n'apporte rien dans mes bras. Je n'ai rien à t'offrir, Seigneur. Je m'accroche simplement à ta croix. C'est tout ce que j'ai. » Il m'a recueilli. Il m'a revêtu comme le Père et son Fils prodigue m'a revêtu d'un vêtement neuf, un vêtement qui n'était pas à moi. Il m'a revêtu du vêtement de sa justice et d'une alliance à mon doigt afin que je sois avec l'épouse ce jour-là. Maintenant, le veau gras a été tué et nous nous réjouissons parce que j'étais mort et maintenant je suis vivant. J'étais perdu et je suis retrouvé. Grâce infinie de notre Dieu qui un jour m'a sauvé. Pire que Barabbas, j'étais perdu, mais il m'a sauvé. Aveugle et maintenant je vois. La grâce m'a enseigné la crainte et en... J'étais perdu, mais il m'a sauvé. Aveugle, et maintenant je vois. La grâce m'a enseigné la crainte et enlevé mes peurs. Combien précieuse elle m'a semblé au moment où j'ai cru. Quand nous aurons pendant 1000 ans brillé comme le soleil, plus d'étoiles, le soleil, nous pourrons, comme au commencement, lui offrir nos hommages. Nous serons dans l'éternité alors. Oh, comme j'aime Jésus, parce qu'il m'aima le premier. Oh, comme c'est merveilleux. Venez avec moi dans l'Exode, s'il vous plaît, au chapitre 21. L'exhortation de son esprit. Maintenant, nous allons parler de la façon de recevoir. Je vous ai montré, il dit les résultats, il est ici. Oh, comment recevez-vous la marque de la bête? Je vais vous montrer ce qu'est votre destin, là. Maintenant, la marque de la bête, Exode, chapitre 21. Je vais le prendre dans l'Ancien Testament pour que vous puissiez le voir ici, aussi dans le Nouveau Testament. J'ai beaucoup d'écritures ici que nous connaissons tous maintenant, lisons. Voici les lois que tu leur présenteras. Si tu achètes un esclave hébreu, maintenant souvenez-vous, c'est un hébreu, c'est un croyant, voyez. Un esclave hébreu, il servira 6 années, mais la 7e, il sortira libre sans rien payer. S'il est entré seul, il sortira seul. S'il avait une femme, sa femme sortira avec lui. Si son maître lui a donné une femme, et qu'il en ait eu des fils ou des filles, La femme et ses enfants seront à son maître et il sortira seul. Je ne vais pas, je sais que mon temps est écoulé, excuse-moi, frère Neville, mais je ne dois pas fondir la chose, frère. Regardez ici, ce n'est pas ce qu'est votre mère, ce qu'est votre père. Il s'agit de vous. Pas votre femme, voyez, sa femme ne comptait pas, ses enfants ne comptaient pas, c'était lui. Peu importe, votre mère était peut-être une sainte, votre père était un saint, comme le père et la mère d'Ésaü, mais c'était un coquin, voyez. Mais c'est une affaire individuelle avec vous. Vous dites, mon père est un prédicateur. Ça n'a rien à voir avec vous. Ma mère était une femme consacrée. Oh, elle est au ciel. C'est peut-être vrai, mais qu'en est-il de vous? Il s'agit de vous. Et si l'esclave, maintenant c'est ici, maintenant, observez cette marque de la bête. Bon, je n'ai pas le temps de revenir en arrière parce qu'il reste encore 20 minutes, mais je vais vous le dire. Donc, il y avait un temps qui revenait tous les 7 ans. Il se passait 6 ans. Et la 7e année, les étudiants de la Bible, les ministres et les autres qui sont ici savent que c'est vrai. C'était appelé, la 7e année était appelée l'année du jubilé. Tout était au repos. On ne plantait rien la 7e année. La terre était au repos, tout. Il ne faisait que de l'année, vous voyez. Tout était au repos à la 7e année. Et à la 7e année, il y avait un prêtre qui sonnait de la trompette. Et si un homme était esclave, peu importe ce que ses dettes, il était libre. Maintenant, c'est un type de la trompette de l'Évangile. Vous avez peut-être servi le diable toutes ces années, enchaîné, buvant, fumant, jouant et pêchant des choses sales, quoi que vous ayez fait. Mais quand vous entendez le son de la trompette de l'Évangile, c'est un signe que vous pouvez être libre. Vous pouvez y aller. La foi vient de ce qu'on entend de la parole de Dieu. Maintenant que vous avez entendu le plein évangile, pas besoin de rester lié plus longtemps. On s'est resté assis ici à dire, « Oh, je l'ai entendu, mais je ne l'ai pas écouté. » Voyez? Bon, alors, ce n'est pas pour vous. Non, non. C'est pour ceux qui l'écoutent. Très bien. Vous pouvez l'entendre. Maintenant, regardez ce qu'il a dit ici. Maintenant, pour le prouver, observez de très, très près. Soyez attentifs pour les 2 ou 3 prochaines minutes. Et si l'esclave, c'est l'homme qui allait être libéré, dit simplement, « J'aime mon maître. » Oh, j'aime aller danser. Je n'abandonnerai pas mes danses pour personne. Je n'abandonnerai pas ceci ou cela ou autre pour personne. Ma femme, mes enfants, les choses de cette terre que j'aime. Et écoutez, frère Branham, je vais vous dire, voulez-vous dire que je dois... Vous n'êtes pas obligé d'arrêter quoi que ce soit, arrêtez simplement, et ça s'arrête tout seul. Vous dites, eh bien, je ne ferai pas ça, je n'ai pas besoin de faire ça, je vais partir de l'Église, je suis aussi bon que vous, n'importe quoi d'autre. Très bien, frère, c'est bon, vous attendez ce qu'est la vérité? Bien, maintenant, écoutez ceci, ce n'est pas Père, Fils, Saint-Esprit, eh bien, si vous voulez rester comme ça, allez-y. Vous avez entendu le son de la trompette, et vous avez entendu la note qu'elle donne, et la Bible dit, « Oh Dieu! » Regardez ça. Est-ce que ça ne ferait pas un texte pour la prochaine heure? Si la trompette donne un son incertain, si votre dénomination dit Père, Fils, Saint-Esprit, cela ne sonne pas comme la trompette. Si la trompette donne un son incertain, qui se préparera pour la guerre? L'esclave dit clairement, j'aime mon maître, j'aime le diable qui me pousse à faire ces choses, c'est correct. Et je ne pense pas, je pense juste que vous êtes trop étroit d'esprit là-dessus, je pense que vous êtes trop fermé. Très bien, j'aime ces choses, je pense que nous devrions avoir ces grandes choses comme ceci, faire ceci, le monde. Nous avons des danses, nous avons la loto dans notre église, ces choses-là, nous avons tous du bon temps et ils sont aussi bons que n'importe qui de cette bande que vous avez. OK, ça ne fait rien, très bien. Et je ne sortirai pas dans cette liberté de l'esprit dont vous parlez, alors son maître, le diable, l'amènera devant les juges et il le fera approcher de la porte. La quoi? Qui est la porte? J'ai mis devant toi une porte. Quand cette marque de la bête est-elle venue? En cet âge-ci où la porte a été mise. Marquage final de la bête. L'amenant à la porte ou au poteau, c'est le calvaire, très bien. Et son maître lui percera l'oreille avec un poinçon et il servira pour toujours. Que voulez-vous dire, frère Branham? Si vous entendez la vérité de l'Évangile et que vous refusez de marcher en elle, alors Dieu marque votre oreille et là, vous ne l'entendrez plus jamais. Vous avez franchi la ligne entre la vie et la mort. Ensuite, vous continuerez avec votre organisation, votre dénomination, le reste de vos jours, pour toujours. Marchez dans la lumière, les enfants. Elle est vraie. Vous servirez ce maître pour toujours. Laissez, vous ne voulez pas. Vous voyez, la trompette avait sonné. Il pouvait être libre. C'était la grâce de Dieu. C'était l'année du jubilé, l'achèvement. Le jour du péché est fini, frère. Je dis à chacun de vous qui servez le péché, sur bande ou dans l'auditoire visible, vous êtes tous ceux qui servent le péché. Le jour du péché est terminé. Jésus est mort. Vous n'avez plus à servir le péché. Vous n'avez plus besoin de vous soumettre au credo et aux dénominations. Celui que le Fils a enfraîchi est réellement libre. Si vous voulez être libre et être libre dans le Fils, détachez-vous de toutes ces choses et servez-le. Allez-y! Mais si vous ne le voulez pas, alors votre organisation, votre maître, celui que vous servez, marquera votre oreille et vous ne pourrez plus l'entendre. Si jamais Dieu parle à votre cœur, venez, c'est le temps. Et que vous le refusez, alors vous recevez sa marque, endurcie contre la vérité. Voilà le sceau du diable, la marque de la bête, voyez-vous? Que fait la marque de la bête? Elle vous ramène au romanisme, au dénominationalisme, et vous n'entrerez jamais pour être libre. Vous servirez cela pour toujours. Voilà la marque de la bête. C'est dur, mes amis. C'est tranchant, mais c'est ce que je ne suis pas responsable. Juste ce que dit cette Bible. Maintenant, c'était un type dans l'Ancien Testament qui préfigurait l'écoute de l'Évangile, de la bonne nouvelle. Tu es libre. Vous n'avez plus à être lié. Vous êtes absolument libre en Christ, Jésus, sans péché ni ces choses. Vous qui aimez le monde, la Bible dit, si vous aimez le monde ou les choses du monde, l'amour de Dieu n'est même pas en vous. Est-ce vrai? Si vous aimez le monde ou les choses du monde, l'amour de Dieu n'est pas en vous. Alors, qu'en est-il de toutes ces grandes attractions dans le monde aujourd'hui sous le nom de religion? Les choses du monde. Et les gens gobent ça comme un cochon dans une porcherie, vous voyez? Oh, c'est correct. Il n'y a rien là, vous voyez? Ils sont scellés et marqués, vous voyez? Comprenez-vous maintenant ce qu'est le reste des Juifs, les 144 000, où ils se trouvent en train d'attendre, juste à l'heure? Pouvez-vous voir maintenant que la Vierge folle qui ne prendra pas l'huile devra ressusciter pour être séparée, les justes des faux au jour du jugement? Comprenez-vous que lorsque la Vierge folle commence à voir comme maintenant qu'elle avait besoin de ceci, elle est partie en chercher et c'est à cette minute même que l'époux est venu? Alors combien proches sommes-nous? Maintenant même, il ne reste que peu de temps. Je ne sais pas combien de temps encore. Je ne pourrais pas dire quand. Je ne sais pas. Peut-être une autre année, peut-être un autre 10 ans, 40 ans, peut-être 40 minutes. Je ne sais pas. Je ne peux pas le dire. Mais je sais que c'est proche. Très proche. Et l'Esprit du Seigneur. Maintenant, viendra un temps où la première chose que vous savez, l'Église commencera simplement à se refroidir. Maintenant, combien de personnes ont donc remarqué le refroidissement de l'Église ces dernières années? Certainement. Où va-t-elle? La Odyssée. Là où nous reprendrons ce soir et présenterons l'âge de l'Église de Laodicée, nous montrerons à partir de afin que vous le voyez et voir son message et ce qu'il sera, et à la fin de l'âge de l'Église de Laodicée, quand il chevauchera et s'étendra alors dans l'éternité. Oh, je l'aime tout simplement, pas vous? Oui, monsieur. Qu'est-ce que le sceau de Dieu? Saint-Esprit. Quelle est la marque de la bête? Rejetez-la. Ce sont les deux. L'un est de le voir. Eh bien, et combien en a-t-il sur terre qui ne le reçoivent pas? Tous ceux qui n'ont pas été scellés reçurent la marque de la bête. Tous ceux qui n'avaient pas l'Esprit de Dieu avaient la marque de la bête. Le sceau de Dieu est le Saint-Esprit. La Bible dit. Chaque endroit de l'Écriture en parle. Disent que c'est la marque de Dieu, le sceau de Dieu. Et tout ce qui ne l'avait pas était celui qui le rejetait. Et comment l'ont-ils rejeté? En refusant de l'entendre. Est-ce que c'est vrai? Maintenant, souvenez-vous, comment obtient-on la foi? En écoutant. Où était-il à poser? Sur la main? Non, sur la tête? Non, à l'oreille? Vous voyez, à l'oreille, Louis. Qu'est-ce qu'elle a fait? Marqué à l'oreille. Et plus jamais. Vous dites, plus jamais cela pour moi. Je ne veux plus rien avoir avec ça. Je ne veux rien avoir avec ça. C'est simplement comme eux. Frère Neville, je vais simplement laisser cela aller jusqu'à ce que j'allais vous dire qu'il est impossible pour ceux qui ont été éclairés, voyez-vous, d'entrer dans le royaume, vous voyez. C'est comme ces croyants frontaliers. Regardez. Il est impossible pour ceux qui ont jadis été éclairés, ont eu peur au Saint-Esprit, ont goûté la puissance du monde à venir. S'ils tombent, soient renouvelés encore à la repentance, puisqu'ils crucifient pour leur part le Fils de Dieu et l'exposent à l'opprobre et estiment profane le sang de l'Alliance par lequel il a été sanctifié. Vous voyez, c'est absolument, totalement impossible pour un élu de faire ça. Il ne pouvait pas le faire, vous voyez, car que ferait-il? Mais en estimant le sang de l'Alliance. Maintenant, voyez-vous, s'il a été élu et dans le groupe, il ne peut pas le faire. C'est impossible pour lui de le faire. Maintenant, on a pris, on s'ennuie à fond, car la pluie tombe sur la terre pour la... Et les épines et les chardons est proche du rejet, dont la fin est de brûler. Le blé devrait être amené à la maison dans le grenier. Mais cette pluie vivifiante tombe à la fois sur les mauvaises herbes et sur le blé. Tous les deux se réjouissent et ressentent la même chose, la joie de la voix. Mais c'est à leurs fruits que vous les reconnaîtrez, soit s'ils porteront les fruits d'une mauvaise herbe, soit qu'ils porteront les fruits du grain plutôt du blé. Maintenant, voici ce qu'il faut faire. Maintenant, pour montrer où cette frontière, j'essaie de vous présenter cette vierge. Vous voyez, alors vous allez comprendre maintenant. Le croyant frontalier, regardez ce qui s'est passé quand ils sont arrivés à Kadesh Barnea. Les enfants d'Israël. J'ai simplement étudié cela d'un bout à l'autre de la Genèse et d'un bout à l'autre d'Exode et partout ailleurs, essayant de vous montrer en type, vous voyez, pour que la classe ne le manque pas. Maintenant, quand ces gens dans l'Exode, quand ils sont arrivés à Kadesh Barnea était le siège du jugement du monde à cette époque. C'est là qu'Israël a reçu son siège du jugement. Qu'ils avaient simplement, c'était juste à 11 jours. De la montagne où ils avaient reçu les commandements jusqu'au jugement. Un trajet de 11 jours sur le bord de la mer, dit la Bible. Un trajet de 11 jours et ils sont arrivés à Kadesh où ils ont été jugés. Après que Dieu les ait conduits pendant à peu près 4 jours, ils sont retournés là dans le désert, ils ont erré là, ils ont reçu les commandements et des choses comme ça. Ils sont retournés et tout ce qui s'est passé. Puis ils sont venus ici et 11 jours plus tard, ils sont venus à leur jugement. À Kadesh Barnea. Que s'est-il passé? Il en a pris un de chaque tribu. Il est allé explorer le pays et regarder quel genre de pays c'est. Eh bien, ils sont tous allés voir. Deux d'entre eux sont entrés. Ils ont pris une grosse grappe de raisin. Oh, une énorme grappe. Il a fallu deux hommes pour la porter. Maintenant, qu'ont-ils fait quand ils sont revenus et qu'ils ont vu quelle sorte de pays c'était? Ils ont vu les Amoréens. Et les différents autres là-bas, ils ont dit, eh bien, ce sont des géants. C'était bien sûr les fils de Caïn qui étaient finalement établis dans ce pays. Il a dit, ce sont des géants. Et ils ont dit, nous ne sommes pas capables de nous en emparer. Leurs terres sont toutes clôturées. Il y a de grandes murailles. Et bien, nous ressemblons à des sauterelles à côté d'eux. Qu'avaient-ils fait? Pourquoi? Ils avaient absolument vu le pays. Ils en avaient goûté les fruits. Vous voyez, Caleb et Josué sont allés, ont pris l'évidence et les ont ramenés. Ils avaient sur leur épaule. Ils ont goûté leurs fruits. C'est vrai. Ils n'y ont jamais été, mais Caleb et Josué, ils sont allés. Ils ont ramené l'évidence. Caleb et Josué ont dit, nous sommes capables de nous en emparer. Vous voyez? Pourquoi? Parce que Caleb et Josué regardaient la parole. Dieu a dit, le pays est à vous. C'est rempli d'amourins et des éviens et de toutes sortes de liens là-bas, mais il a dit, c'est à vous. Et tout lieu que foulera la plante de vos pieds, je vous le donne. C'est vrai, continuez à marcher, voyez, c'est à vous. Mais ils disent, oh non, nous ne pourrions pas avoir un tel réveil. Oh, pourquoi, vous savez quoi, l'archevêque ou l'évêque ou le prêtre, quelqu'un viendra et nous mettra tous dehors. Allez-y, c'est vrai, on va l'avoir. Maintenant, et ces deux-là sont revenus et ont dit, nous sommes plus que capables de nous en emparer, car Dieu l'a dit, allez nous en emparer. Mais voyez, ces croyants frontaliers, ils sont là assez loin pour y goûter. Ça a bon goût, oui. Mais on n'a pas pu le faire. Maintenant, qu'est-ce que c'est que ça? Voilà le croyant aujourd'hui. Maintenant, regardez ce type juste ici. Dieu l'appelle. Très bien. Maintenant, il est sauvé. Sa mère fait la lessive sur une planche, l'envoie dans un collège pour faire des études avant d'entreprendre comment prêcher. Eh bien, il sort là, il pense toujours, chaque fois qu'il voit des femmes immoralement habillées, ça le travaille. Chaque fois qu'il sent la cigarette, il ne peut s'empêcher d'en fumer une. Il sait que c'est mal. Il ne veut pas faire ça. Alors, il dit, « Seigneur, sanctifie-moi, ôte ces choses loin de moi. » Dieu a dit, « Très bien, je ferai cela pour toi, fils, j'ôterai tout cela de toi. » Une nuit, il rentre dans une petite mission quelque part, il entend le baptême du Saint-Esprit, il dit, « Dic donc! » Il gravit la première marche, la justification, il gravit la deuxième marche, la sanctification. Maintenant, il est prêt pour le baptême. Voyez, 1, 2, 3. Il est prêt pour le baptême. Quand il arrive là-haut, il lit dans la Bible, il dit, c'est exactement ce qu'ils ont fait. Oui, exactement. Ce baptême au nom de Jésus, c'est ce qu'ils ont fait. C'est vrai. Il m'a dit de relire ça. J'ai lu dans toute la Bible et il a raison sur ce point. Monsieur l'évêque, qu'est-ce que vous... Par ces absurdités. Oh, je vois. Ils ont lu le Saint-Esprit, ils ont parlé en langue, ils ont fait ces choses, ils ont guéri les malades. Oui, c'est exactement. Ils regardaient par-dessus. Vous voyez, ils regardaient dans le pays frontalier. Oh, si j'enseignais ça à mon église. Oh, je suis presbytérien, méthodiste. Vous savez, oh, l'évêque va me jeter là. Eh bien, on ne peut pas faire ça. On ne peut pas avoir une réunion comme ça dans notre église. Chacun d'entre eux se lèverait et partirait. Celui qui a été une fois éclairé et qui a goûté au don céleste et qui tombe de cette voie qu'il a prise ne pourra plus être renouvelé et amené à la repentance parce qu'il a péché contre Dieu. Qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce que le péché? L'incrédulité, il a péché contre Dieu. Et qu'est-ce qu'il a fait? Il a tenu pour profane l'alliance avec laquelle il a été sanctifié, comme si c'était une chose impie, et a méprisé les œuvres de la grâce qui l'ont amené là-haut. Il ne lui reste plus de sacrifice pour lui, mais une attente terrible du jugement ardent et l'ardeur d'un feu qui dévorera les rebelles. Car la vengeance m'appartient, dit le Seigneur. Car la parole de Dieu est plus tranchante, plus puissante qu'une épée à deux tranchants, pénétrant jusqu'à partager jointure et mêle. Et elle discerne les pensées, les intentions de l'esprit. Vous voilà. Quand vous voyez la lumière, marchez en elle. Marchez. Vous ne savez pas où vous allez, mais continuez de marcher. Marchez vers le calvaire. Gardez un bon regard sur le calvaire. Marchez. Marchez. Oh, Dieu, puisse un jour l'Église, qui est un type d'Enoch, il a marché 500 ans devant Dieu. Marchez. Marcher dans la lumière avec le témoignage que tout ce que Dieu disait, il le faisait. Il ne lui a pas déplu, pas ce que le Seigneur disait, Enoch le faisait. Maintenant, c'est un type, souvenez-vous, l'arche est un type des Juifs, les 144 000 qui ont été transportés, c'est-à-dire Noé et sa bande. Mais Enoch est rentré à la maison juste un peu avant le déluge, vous savez. Alors Enoch a continué à marcher dans la lumière. Donc un jour, il a senti ses pieds s'élever du sol. Il a simplement continué à marcher. Il est entré dans la gloire sans même mourir. C'est vrai. Dieu l'a enlevé. Parce qu'il marchait dans la lumière, avec le témoignage qu'il marchait dans la lumière de Dieu. Il continuait de marcher, de marcher. Prenons nos chaussures de marche, Église. Continuez de marcher dans la lumière, merveilleuse lumière. Venez là où les rosées de la miséricorde brillent. Brille autour de nous, le jour et la nuit. Jésus, la lumière du monde. Chantons-le maintenant. Nous marcherons. dans la lumière, merveilleuse lumière. Oh, venez là où les rosées de la miséricorde brillent. Brillent autour de nous, le jour et la nuit. Jésus, la lumière du monde. Vous, tous les saints de la lumière, proclamez Jésus, la lumière du monde. Alors, les cloches du ciel chanteront. Jésus, la lumière du monde. Nous marcherons dans la lumière, la merveilleuse lumière. Oh, venez là où les rosées de la miséricorde brillent. Brillent autour de nous, le jour et la nuit. Oh, Jésus, la lumière du monde. Inclinons la tête et juste un instant. Je me demande s'il y en a ici qui aimeraient faire l'expérience d'être rempli du Saint-Esprit. Dites, souvenez-vous de moi, Frère Branham. Souvenez-vous de moi à l'Église. Je veux marcher dans la lumière. Je veux cette douceur, pas de racine d'amertume en moi. Je veux être juste serviteur de Dieu. Levez la main en disant, souvenez-vous de moi, Seigneur. Oui, 20 mains ou plus en l'air. Maintenant, gardez vos têtes baissées pendant que nous chantons doucement ensemble. Oh, Jésus, la lumière du monde. Nous marcherons dans cette lumière. C'est une si merveilleuse lumière. Là où la rosée miséricorde brille autour de nous, le jour et la nuit. Jésus, la lumière du monde. Venez tous, saints de la lumière, proclamez. Ô Jésus, il est la lumière du monde. Alors, les cloches du ciel chanteront. Ô Jésus, il est la lumière du monde. Oh, nous marcherons dans cette lumière. C'est une si merveilleuse lumière. Là où les rosées de la miséricorde brillent. Brillent autour de nous. Le jour et la nuit. Ô Jésus, la lumière du monde. Seigneur Jésus, pendant qu'il fredonne ce chant, voulant marcher dans la lumière de l'Évangile, prends ces précieux cœurs, Seigneur. Ils sont à toi. Purifie-les, ôte tout le mal, toute incrédulité, que Jésus, la lumière du monde, entre. Les mouchoirs sont là, Seigneur, pour les malades et les affligés. Viens vers eux, Seigneur Jésus, et guéris-les pour qu'ils puissent marcher dans la lumière. Accorde-le, Seigneur. Nous te remercions pour notre leçon, pour la présence du Saint-Esprit, pour avoir été ici avec nous et pour nous avoir gardés pendant des heures assis ici. Les gens assis dans cette pièce chaude à attendre, ils patientent, attendent, se demandent, Seigneur, car ils réalisent alors qu'ils écoutent la parole lue que nous sommes à la fin des temps. Il ne reste plus rien, juste les divertissements de ce monde. Et un de ces jours, les imitateurs devront cesser. Et je prie, ô Dieu, pour que tu sauves tous ceux qui sont dans la présence divine. Sauve-les par ton esprit. Et que le Saint-Esprit vienne sur chacun d'eux et remplisse leur cœur de bonté et de paix, afin qu'ils produisent le fruit de l'esprit qui est la patience, la douceur, la paix, la patience, la douceur, la foi dans le Saint-Esprit. Accorde-le, Seigneur. Je te les confie maintenant pour ton service au nom de Jésus-Christ, ton Fils. Amen. Nous marcherons. Levons nos mains quand nous chantons. Merveilleuse lumière. Là où les rosées de la miséricorde brillent. Brillent autour de nous. Le jour et la nuit. Ô Jésus, la lumière du monde. Je l'aime. Je l'aime. Parce qu'il m'a aimé le premier. Et a acquis mon salut. Sur le bois du calvaire. Oh, n'est-il pas merveilleux? Nous aurons maintenant le service du baptême dans environ 10-15 minutes, peut-être. Je crois qu'il y a une jeune femme qui va être baptisée, c'est vrai, Frère Neville? D'accord, combien doivent être baptisés ce matin qui ne peuvent pas revenir ce soir pour le service de baptême? 1, 2, 3. 3. Trois qui ne peuvent pas venir cet après-midi ou avant le service du soir pour être baptisés au nom de Jésus-Christ. Que Dieu vous bénisse, mes enfants. Je suis heureux que Dieu ait mis devant vous la porte ouverte. Et vous êtes prêts à entrer maintenant. Vous irez dans la tombe où toutes les vieilles choses sont mortes et enterrées. Maintenant, rappelez-vous, votre baptême n'est qu'une expression extérieure de ce qui s'est passé en bas ici. Et puis, nous marcherons. Dans cette lumière, nous nous préparons. Merveilleuse lumière. Brille autour de nous. Le jour et la nuit. Ô Jésus. La lumière du monde. Oh, cette grande communion. Vous vous sentez bien, n'est-ce pas? Oh, je me sens si bien. J'ai l'impression d'avoir été dans un de ces vieux machines à laver où vous m'avez juste lavé avec du savon et la lessive. Mon frère a dit que peut-être que vous tous voulez être baptisés ce matin. Préparez-vous. Les costumes et les choses seront mouillées ce soir, mais ce n'est pas grave si vous voulez le faire. Mais si vous êtes prêts à être baptisés ce matin, c'est très bien. Je crois qu'il va falloir déplacer ceci, n'est-ce pas, Frère Neville? Très bien. Maintenant, combien veulent rester et voir le service de baptême? Prenez juste quelques minutes et peut-être que vous n'en avez jamais vu. Si vous ne pouvez pas rester, alors assurez-vous de revenir ce soir. Mais j'aimerais que vous puissiez rester quelques minutes pour assister au baptême. On va déplacer ceci. Il y a un grand miroir derrière qui montre chaque personne qui entre. Cela vous frappera, j'en suis sûr. Nous sommes enterrés avec le Seigneur dans les baptêmes. Amen. Pendant qu'il mourait, nous sommes ensevelis dans sa mort, ressuscités en sa résurrection pour marcher en nouveauté de vie. Que le Seigneur vous bénisse. Combien savent ce qu'est la leçon de ce soir? La Odyssée, le dernier et le point culminant des âges de l'Église. Très bien, nous aurons le service du baptême. Teddy, si tu veux bien, vous voulez être baptisé? Vous avez déjà été baptisé. Il y en a qui doivent partir pour Chicago tout de suite. Prions. Seigneur Jésus, ils sont restés et ont écouté la réunion jusqu'au bout. Nous te les confions maintenant, Seigneur, alors qu'ils vont à Chicago. Va avec eux, Seigneur, et que chacun prenne cette merveilleuse lumière et la répande, Seigneur, à travers la ville de Chicago, partout où ils vont. Sois avec eux jusqu'à notre rencontre. Que leur esprit soit ancré en toi. Au nom de Jésus. Amen. Oui, aujourd'hui, mon peuple, ce matin à nouveau, oui, je te dis, mon serviteur, je t'ai accepté dans la prédication de ma parole. Je te suivrai et je te parlerai en privé. Je te montrerai ton itinéraire. Oui, je serai avec toi et je te bénirai. Oui, mon peuple, je vous dis ce matin que je suis le Dieu Tout-Puissant. J'utilise ce vase pour venir et vous parler. Et je vous dis, ne vous détournez pas de mon esprit. N'abandonnez pas la voix qui vous parle. Je suis avec vous comme vous serez avec moi. Détournez-vous de vos voix et détournez-vous de vos pensées et croyez-moi, car je suis avec vous. Si vous venez à moi et que vous me suivez dans le baptême, je vous bénirai et vous préserverai. Je vous ferai passer au travers jusqu'à la fin de toutes choses. Oui, j'ai parlé, et est-ce que je ne l'accomplirai pas? Oui, dit le Seigneur. Levons les mains et disons, merci Seigneur Jésus, louange à ton nom. Merci Seigneur, nous reconnaissons cela. Seigneur, qu'un jour l'Esprit est tombé sur un homme dans la Bible et a juste révélé tout le secret de Dieu, ce qui devait se passer. Père, nous savons que tu es toujours le même Dieu. Et ici, tu es tombé sur cet homme, petit pasteur ici, Seigneur, ce matin, qui était une fois là-bas dans le Nicolaisme, mais tu l'as secoué, il a vu la lumière et il est sorti. Et ici, son cœur est si ouvert jusqu'à ce que tu lui parles, jusqu'à ce que tu ne saches même pas ce qu'il va dire, qu'il se lève et laisse le Saint-Esprit se mouvoir à travers lui dans une voie de prophétie pour nous. Merci, Père, et je te chercherai pour mon itinéraire. Amen. Vous avez compris, n'est-ce pas? Vous voyez ce que c'était? Observez le ton de la voix d'une femme qui parle et regardez l'interprétation revenir sur le même ton, vous voyez? Il y a deux femmes différentes, je doute qu'elles se connaissent ou non, elles ne se connaissent pas. Voilà le Saint-Esprit, regardez le ton de la voix comme celle-là. Ne réalisez-vous pas que c'est le Christ au milieu des gens ici? C'est vrai? Vous avez quelque chose à lire, frère Pat? Allez-y, voyez. Je lis au nom du Seigneur Jésus. Moi, Jésus, j'ai envoyé mon ange pour vous témoigner ces choses dans les églises. Amen. Maintenant, c'est spirituel, la direction divine. Vous voyez le Saint-Esprit qui se meut à travers les laïcs, qui va là-bas, qui parle. Oh, n'est-il pas merveilleux? Pensez-y, mes amis, c'est la même chose dont la Bible parlait. Et elle est ici aujourd'hui. On n'a plus à s'en inquiéter. Oh, venez le recevoir, mon précieux peuple. Venez, recevez-le. Teddy, pendant que nous préparons pour le baptême, et je prie Dieu pour que vos cœurs soient prêts, là où il me conduit, je le suivrai. Puis-je vous aider, mes frères? Eh bien, vous avez coupé ce micro? Je vous adjure par le Dieu vivant, par l'exhortation de sa parole, de venir et d'être baptisé au nom de Jésus-Christ. Rappelez-vous que je fais cela parce que la Bible nous oblige à le faire et Paul dit de le faire. Si un ange enseignait autre chose, qu'il soit maudit. Et je veux juste déclarer ceci à la fin de ma route comme il l'a fait. Je n'ai pas manqué de vous déclarer tout le conseil de Dieu exactement tel que je le connais. Le sang d'aucun homme est sur moi. Oh, n'aimez-vous pas? Oh, comme je l'aime, très bien. Restons debout pendant qu'on chante notre chanson de sortie. Très bien. Jusqu'à 7 heures, nous prendrons le nom de Jésus avec vous. Enfant de tristesse et de peine, il va te procurer la joie. prends-le partout où tu vas. Précieux nom. Aussi doux, espoir de la terre, joie du ciel, précieux nom. Comme c'est doux, espoir de la terre, maintenant que nous inclinons la tête, nous chantons au nom de Jésus. Nous nous prosternerons à ses pieds. Nous le couronnerons roi des rois, car notre voyage sera terminé. La réunion est terminée.